Europe 1.
Nous sommes le mardi 19 mars, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Du bleu partout hier à Marseille, opération XXL contre le trafic de drogue. 750 policiers mobilisés dans plusieurs quartiers de la cité phocéenne. Démanteler ne suffit pas, il faut aussi saisir les biens des narcos. C'est loin d'être le cas. On va voir ça dans un instant. Le projet de loi sur la fin de vie transmis au Conseil d'État avant même la décision des sages. Le texte menace de fracturer la majorité présidentielle. Révélation Europe 1 à suivre. Europe 1 par ailleurs sur les traces d'un phénomène qui inquiète les habitants de la région de Calais, les vols de bateaux par des migrants pour traverser la Manche. Et puis, pourra-t-on guérir un jour tous les cancers? Europe 1 pose la question ce matin alors que vient de s'ouvrir la semaine de lutte contre la maladie. Elle fait 160 000 morts chaque année en France. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Marseille, enjeu majeur de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Opération PlaceNet, c'est le nom de code de cette intervention XXL. 750 policiers et gendarmes mobilisés. Leur cible, 5 quartiers et 170 points de deal. Tout est bouclé. Personne n'entre ni ne sort, sauf les ministres de l'Intérieur et de la Justice attendus sur place ce matin. Europe 1 a choisi d'aller à la rencontre des enquêteurs de terrain. Un constat, entre flics et voyous, la lutte est inégale. Puisque l'argent est le nerf de la guerre, il faut pouvoir taper les trafiquants au portefeuille tout de suite. Reportage Stéphane Burgat.
Crise de vocation pour les services d'enquête depuis 2 ans maintenant et ce n'est pas prêt de s'arranger, déplore le porte-parole national du syndicat Alliance, Rudy Manin.
Imaginez que vous avez travaillé pendant 8 mois sur un dossier, vous avez des avocats en face, il y a une erreur dessus, ils vous cassent la procédure, c'est vachement rabaissant. Beaucoup rentraient dans la police il y a 15 ans pour mener des enquêtes à bout après des filatures. Aujourd'hui, plus personne ne veut faire ça dans la police.
Et selon lui, il serait utile de s'inspirer de la méthode italienne.
Ils n'attendent pas que la procédure soit finie pour saisir tous les biens du mis en cause. En France, tant que la procédure n'est pas finie, on peut pas saisir. Et vous avez des procédures qui peuvent durer jusqu'à 7 ans. Et ça, c'est pas normal non plus.
Et pourquoi pas aussi importer le système des repentis pour briser l'omerta dans les sites? Plaide Bruno Bartosetti d'Unité SGP Police pour la zone sud.
S'ils veulent coopérer avec nous, il faut des garanties pour bien les protéger, mais protéger aussi leur famille, partir sur un changement d'identité. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. De toute façon, on ne peut pas rester dans cette position, il faut aller beaucoup plus loin.
Les enquêteurs qui font part aussi de leur frustration face aux boutiques Uber Sheet sur les réseaux sociaux à portée de clic, mais pourtant inatteignables.
Reportage Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Nuit calme à la Courneuve en Seine-Saint-Denis après les violents incidents de la nuit dernière, renforts policiers et blindés déployés autour du commissariat, attaqués à coups de cocktails Molotov ou des mortiers d'artifice. Garde à vue prolongée hier soir pour les 9 individus interpellés. Certains sont déjà connus des services de police.
Autre dossier épineux pour le gouvernement après celui de la sécurité, le projet de loi sur la fin de vie. Il est arrivé au Conseil d'État.
Un texte divisé en 2 parties. La première sur l'aide à mourir, l'autre sur le développement des soins palliatifs. En attendant la décision des sages, il sera présenté en Conseil des ministres courant avril, avant un débat au Parlement fin mai, un sujet très sensible qui met mal à l'aise la majorité présidentielle. Jacques Serret.
Comme si les atermoiements d'Emmanuel Macron avaient semé le trouble, les députés de la majorité ne parlent pas d'une seule voix sur la fin de vie. D'un côté, ceux qui défendent bec et ongle la démarche du président, voire qui souhaitent aller plus loin encore, comme l'accès au suicide assisté pour les mineurs ou la légalisation de l'euthanasie, telle que le préconise Olivier Falorni, pressenti pour le poste de rapporteur. De l'autre, des parlementaires qui n'hésitent pas à faire part de leur réticence, voire de leur gêne vis-à-vis de ce projet de loi. C'est face à cette majorité présidentielle ciel écartelé que s'installera ce matin Catherine Vautrin. La ministre est consciente des interrogations qu'on cède l'un de ses proches. Son objectif ce matin, rassurer les uns et les autres. Mais sa conviction à elle semble toute faite. Catherine Vautrin est sur la ligne du président, assure son entourage. Dans cette logique, le travail parlementaire pourrait prendre du temps, beaucoup de temps. Un cadre de la majorité estime que le cheminement parlementaire de ce texte devrait durer au moins 18 mois, voire 2 ans.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Dans la région de Calais, à présent, le désarroi des propriétaires de bateaux. Ils sont de plus en plus confrontés au vol de leurs embarcations par des migrants.
Et c'est ce qui est arrivé à Eric. Cet habitant de la commune de Watten s'est fait voler son bateau au début du mois par une quinzaine de migrants. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
Son petit bateau de promenade, Eric Blin, retraité depuis peu, l'avait acheté pour des balades à travers les canaux du marais de Saint-Omer.
Mon bateau était amarré avec 2 chaînes, cadenas sur mon bateau. Et le 9 février, Plus de bateau.
Un bateau volé 30 km dans l'intérieur des terres par un petit groupe de migrants décidés à rejoindre l'Angleterre en évitant les contrôles sur le littoral.
Ils prennent tous les petits cours d'eau. Avec des fonds plats, on passe partout. On évite les écluses. Ensuite, on prend direction Canal de Calais. Et après, le chenal de Gravelines. Et on est en pleine mer.
Repérés par les gendarmes, les migrants sont malgré cela parvenus à gagner la Grande-Bretagne.
Mon bateau est en Angleterre. À l'heure actuelle, on se parle aujourd'hui. Ils ont réussi leur traversée. Ouais, c'est des inconscients, on va dire. Parce que c'est des bateaux en bordure de côte, je veux bien, à la rigueur. Mais pas le grand large.
Alors Éric Blin ne sait pas quand il récupérera son bateau. Mais sa crainte maintenant, c'est que d'autres vols de ce type se multiplient dans le marais.
Avec le recul, j'en veux plus aux passeurs. Ici, il doit y avoir sûrement un réseau, parce que vu le nombre de vols qu'on a, il doit y avoir un réseau de passeurs dans le coin, c'est pas possible autrement.
Des réseaux toujours plus imaginatifs pour vendre très cher aux migrants des moyens de traverser la Manche.
À Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
À peine réélu triomphalement, Vladimir Poutine fixe ses priorités pour l'avenir de la Russie.
Un plébiscite, voilà ce que cherchait le président russe. Il l'a obtenu avec plus de 87% des voix. Élection moquée par les principales capitales européennes, mais saluée par le régime chinois et l'Inde. Vladimir Poutine s'est offert une immense fête sur la place Rouge à Moscou hier. Célébration et courte allocution pour définir les contours de son cinquième mandat à la tête de la Fédération de Russie. Nicolas Tonev.
Oui, première priorité, la conquête partielle ou totale de l'Ukraine. Le concert d'hier soir sur la Place Rouge fêtait les 10 ans de l'annexion de la Crimée. C'est la réaffirmation de la stratégie paradoxale de conquête territoriale de défense selon Moscou. Géorgie, Crimée, Ukraine, peut-être à venir des troubles en Moldavie pour former un glacis anti-OTAN. Autre stratégie au long cours, la diabolisation sociétale de l'Occident dont les mœurs se sont présentées comme dégénérées. Il s'agit de réaffirmer le fait russe, l'unité russe derrière les traditions du pays préservées par l'État. Troisième orientation, s'autonomiser économiquement et surtout technologiquement, là encore pour moins dépendre de l'Occident. Une affaire de longue haleine qui justifie la quatrième priorité non dite du patron du Kremlin, garder le pouvoir aussi longtemps que possible. À la fin de ce mandat, en 2030, Vladimir Poutine aura régné plus longtemps que Staline lui-même et resté au Kremlin le protège des poursuites judiciaires promises par les familles des opposants assassinés et des victimes des guerres de Tchétchénie, d'Ukraine ou de Géorgie.
Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie à Europe 1.
Et puis c'est la semaine nationale de lutte contre le cancer. Et voilà la question que l'on pose ce matin sur Europe 1. Est-ce que l'un jour on sera en mesure de guérir tous les cancers?
160 000 Français en meurent chaque année. Première cause de mortalité chez les hommes, la deuxième chez les femmes. Les traitements, la recherche ont considérablement progressé ces dernières années. Mais cette question, c'est vrai, revient très souvent, Yasmine Akatou. Est-ce que l'on peut espérer un jour vaincre la maladie sous toutes ses formes?
Eh bien, la réponse est oui, selon Steven Le Guil, directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie.
Je pense qu'un jour, nous pourrons rendre tous les cancers curables.
Si le professeur en hématologie est si optimiste, c'est grâce aux progrès réalisés ces 10 dernières années. La recherche avance à grands pas, notamment sur l'immunothérapie, qui a sauvé des milliers de malades que l'on pensait condamnés.
On est capable maintenant de manipuler le système immunitaire pour le rendre capable de reconnaître et de détruire les cellules tumorales.
L'espoir repose aussi sur l'intelligence artificielle. Par exemple, à l'Institut Curie, grâce à l'IA, les biopsies sont analysées 10 fois plus vite qu'au microscope. Par ailleurs, des innovations futures permettront de dire si un traitement est efficace chez un patient avant même de l'administrer.
De plus en plus de traitements arrivent. L'idée est là de pouvoir faire des tests de traitement grâce à des cellules du patient mises en culture, pouvoir prendre en compte les mutations, toutes les anomalies, pouvoir le modéliser dans un ordinateur pour faire un petit peu simple et donc pouvoir anticiper et choisir d'emblée un traitement dont on a tous les arguments pour penser qu'il sera optimal.
Cette avancée majeure doit arriver dans les toutes prochaines années dans les centres de lutte contre le cancer.
Yasmine Akatou, spécialiste santé à Europe 1. Un mot de football, une absence tient remarquée en équipe de France, celle d'Antoine Griezmann, forfait sur blessure. L'attaquant va manquer les 2 rendez-vous amicaux face à l'Allemagne samedi et le Chili mardi prochain. Une première pour le joueur, 7 ans, après 7 ans de présence ininterrompue chez les Bleus.
Voilà, puis on parlera aussi beaucoup un petit peu de la tenue des Belges pour la prochaine Euro.
Les Diables Rouges ne joueront pas en rouge et noir, ils joueront en haut bleu ciel et short marron.
Couleur.
Pour rendre hommage à Tintin.
Voilà
allez pendant l'Euro.
C'est assez sympa, c'est assez réussi. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
On va parler de Naval Group, ce discret champion industriel français qui fabrique notamment des sous-marins. Il vient de signer un très gros contrat avec les Pays-Bas. On va voir ça avec Nicolas Bouzou juste après l'invité actuel d'Europe 1 Matin. Et question sur l'aide à mourir avec le professeur d'éthique médicale Emmanuel Hirsch dans un instant sur Europe 1.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur émérite d'éthique médicale, Emmanuel Hirsch.
Bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Professeur émérite à l'Université de Paris-Saclay, auteur de nombreux livres sur l'éthique médicale. Le titre de votre dernier ouvrage tombe pile dans l'actualité. Soigné par la mort, est-il encore un soin? Vous posez la question. Ce livre est paru aux éditions du Cerf. Alors évidemment, on en parle parce qu'Emmanuel Macron veut faire entrer l'aide à mourir dans la loi. On parle en réalité d'un droit au suicide assisté. Hein. C'est-à-dire que si le malade ne peut pas faire lui-même le geste, un médecin ou un proche pourra l'accomplir à sa place. Dans ce cas, donc, il s'agirait d'euthanasie. Mettons les mots sur les choses. Le projet doit atterrir à l'Assemblée fin mai où il va être discuté. Sans doute va-t-il être transformé. Le président Emmanuel Hirsch a promis une procédure très encadrée, réservée à des cas précis, dans des conditions strictes. Bref, que l'aide à mourir reste une solution d'exception. Est-ce qu'il faut le croire, selon vous, Emmanuel Hirsch?
Je pense qu'il faut croire au président de la République, il faut croire à celui qui préside aux destinées de la nation. Maintenant, dans l'application, et on voit les modèles dans d'autres pays, entre une décision effectivement limitative aujourd'hui, et on a maintenant avec l'AFP une indication un peu plus précise aujourd'hui sur ce que sera ce projet de loi, il y a effectivement des critères, ce qu'on appelle des critères de minutie, mais on sait très bien que l'extension est assez naturelle, puisque tous ceux qui nous ont précédés, notamment au Benelux depuis 2002, ont une extension, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les personnes atteintes de maladies mentales.
Oui.
Donc l'encadrement, c'est rassurant, mais même les ambivalences, puisqu'on nous parle de suicide assisté, en fin de compte c'est de l'euthanasie, puisque la personne qui ne pourrait pas elle-même se suicider à travers les produits qu'on pourra lui mettre à disposition sera aidée par un médecin ou par un tiers. Donc on est dans quelque chose d'assez flottant. Là où il y a aussi une ambiguïté, c'est sur la notion d'accompagnement à la fin de vie. En fin de compte, il y a une ambiguïté entre la démarche des soins palliatifs, qui est réfractaire au suicide assisté, en tout cas, qui considère...
On a entendu les soignants qui disent, avant d'aider à mourir, aidons à vivre, développons les soins palliatifs.
Alors certains ont été reçus hier par Mme Catherine Vautrin, et sont sortis sans la moindre des informations. Il faut suivre l'actualité sur Europe 1 pour que les professionnels les plus exposés, les plus impliqués, soient informés. C'est pour vous dire aussi qu'aujourd'hui, la concertation, notamment... Quand je parle de ces professionnels, c'est eux qui sont sur le front. Le président de la République peut apporter effectivement sa compassion et des lignes directrices. Mais ceux qui sont sur le front aujourd'hui, c'est des professionnels qui sont totalement démunis par ce que laisse pressentir cette nouvelle loi. C'est-à-dire qu'il y aura une demande extrêmement forte. Moi, je le vois au quotidien dans mes activités, par exemple en psychiatrie, de plus en plus de personnes. On avait fait de la prévention contre le suicide. Je dis, mais ça va être possible, aidez-moi à mourir. Donc on va rentrer vraiment dans un autre temps.
Oui, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, l'expertise médicale, elle va se faire doubler par le ressenti du malade sur sa souffrance. Et s'il dit, c'est trop dur pour moi, j'ai envie d'en finir, Emmanuel Hirsch, vous nous dites qu'à la lumière de ce qu'on a vu aux Pays-Bas, de ce qu'on a vu en Belgique, la loi, à un moment, devra céder face à la pression sociale, cette revendication à pouvoir accéder à l'aide à mourir, même si, initialement, la loi ne prévoit pas le cas, par exemple, celui des mineurs.
D'accord. Alors, je vous pose une question, dire que ce n'est pas l'expertise médicale, c'est l'expertise soignante, avec également un militantisme associatif, c'est-à-dire des représentants de la cité. Ce n'est pas une affaire médicale, c'est une affaire d'abord très individuelle. Et la grande difficulté, et on va le voir dans les mois qui viennent, au Parlement, puisqu'en mai, au Parlement vont commencer les approches, la grande difficulté, c'est de légiférer sur des affaires aussi personnelles et intimes. À titre personnel, je le dis toujours, je ne sais pas comment je me situerais quand je serai confronté à cette situation, c'est-à-dire d'une souffrance réfractaire à toute forme d'apaisement.
Donc, qu'est-ce qu'on dit, par exemple, je vous pose la question très directement, on va prendre des cas concrets. Il y a 2 ans, en Belgique, vous avez une jeune femme qui s'appelle Chanty de Corte, j'espère que je ne corche pas son nom, victime des attentats de Bruxelles en 2016, euthanasiée à l'âge de 23 ans en 2022 pour dépression. Emmanuel Hirsch, qu'est-ce qu'on fait d'un cas pareil?
Dans le dernier rapport de la commission de contrôle en Belgique, 48 personnes ont été euthanasiées alors qu'elles étaient atteintes de pathologies mentales. Alors il y a aussi une souffrance, quand on discute avec les psychiatres, on peut comprendre.
49 cas, vous dites, c'était l'année dernière, 49, c'est ça?
Donc ça c'est officiel en quelque sorte.
Sur alors, 3000 début, euthanasies l'an dernier.
Sur 3428 euthanasies. Déclaré, parce que tout n'est pas déclaré, il faut bien préciser les choses. Donc moi j'ai du respect aussi pour les personnes qui sont atteintes de ces pathologies qui représentent pour elles une souffrance existentielle quelquefois insurmontable. La vraie question quand on discute avec les psychiatres, c'est la réversibilité possible et aussi ce que ça signifie.
C'est-à-dire la réversibilité possible.
Vous avez beaucoup de maladies mentales, aujourd'hui vous voyez dans quel contexte se trouve la psychiatrie en France. Est-ce qu'on a accès vraiment au traitement? Est-ce qu'on a accès à des soins, à la continuité des soins? On a ces situations de précarité, je donne juste un exemple. Regardez l'accès aujourd'hui au traitement, au suivi médical, y compris à l'hôpital. Vous avez des gens qui sont en errance thérapeutique,
absolument,
qui n'ont plus d'interlocuteur. Donc ils sont atteints de maladies, on les a traités à un moment donné, mais dans le quotidien de leur vie, ils sont dans une désespérance telle que quelquefois la mort est la dernière manière de s'en sortir avec dignité. C'est en tous les cas ce que je vois sur le terrain.
Oui.
Donc avant de se préoccuper de la fin de vie, je vous l'avais déjà dit, occupons-nous de la vie de ces personnes. Alors pour la psychiatrie, c'est un élément, mais aussi des personnes qui sont lassées d'existence et on considère que leur dureté du quotidien, leur souffrance existentielle est compatible avec une demande d'euthanasie. Puis vous avez la question qui m'a beaucoup frappé, des enfants. Parce que dans le projet de loi, on nous parle d'adultes, parce qu'il faut avoir la majorité aujourd'hui pour accéder.
Oui.
Et là, ça m'a beaucoup frappé. 2014, pour ce qui concerne la Belgique, et aujourd'hui les Pays-Bas, depuis 2023, ont une législation favorable à ce qu'une personne mineure, et c'est intéressant aux Pays-Bas, de 1 à 12 ans. C'est-à-dire en Belgique, c'est à partir de 12 ans. Ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai regardé un document de l'Académie royale de médecine de Belgique de 2013. Ils ont une commission éthique et fin de vie qui déroule en quelque sorte toutes les justifications pour l'accès d'un mineur, donc la capacité de discernement ou pas. Et je me suis interrogé d'abord sur deux choses.
C'est quoi le discernement avant 12 ans ?
Le discernement, même quand on est adulte, puisqu'on nous parle de la faculté de discernement. Est-ce qu'on a vraiment une autorité, une souveraineté sur soi quand on est atteint d'une maladie, d'une souffrance, avec aussi toutes les représentations sociales ? Et un dernier point qui est important en termes de justice, puisqu'on nous parle de fraternité. Imaginez, l'environnement est très important.
C'est le président qui a parlé de fraternité.
Voilà, oui, mais imaginez l'environnement d'une personne. Si vous avez un environnement social soutenant, c'est pas la même chose que si vous êtes seul.
Oui.
Si vous êtes en situation de précarité, c'est pas la même chose que si vous êtes très intégré socialement.
Je vous soumets un dernier cas, parce que celui-là m'a beaucoup interpellé, Emmanuel Hirsch, aux Pays-Bas, une campagne a récemment fait l'éloge de l'euthanasie à deux. Vous êtes en couple, monsieur est perdu parce qu'il est atteint d'une maladie incurable. On propose à madame d'accompagner son époux dans la mort par l'euthanasie. Qu'est-ce qu'on fait d'un cas pareil, Emmanuel
Hirsch ? Ça a été le cas réel, pour un ancien Premier ministre, enfin je veux dire, qui est mort avec sa femme. En fin de compte, ce qui me gêne, c'est que si c'est une affaire individuelle, intime et privée, ça concerne la personne, le suicide.
C'était qui l'ancien Premier ministre, pardon
J'ai plus son nom en tête, mais il s'agit en fin de compte, il y a quelques semaines, d'un ancien Premier ministre qui a souhaité l'euthanasie avec sa femme. Là où ce qui me gêne, c'est l'intervention de la société et de la loi pour légitimer un acte personnel qui est dérogatoire à une certaine vision que je me fais précisément de la sollicitude et de la fraternité. Donc on érige certains modèles, en quelque sorte, qui seraient la vertu pour aujourd'hui, et je trouve qu'il faut être extrêmement prudent. On est dans une société de l'indifférence, de la violence, du mépris à l'égard du grand âge, du mépris à l'égard des personnes atteintes de maladies chroniques. À un moment donné, il faut quand même qu'on se reprenne. Et je dirais que quand je tiens un discours de cette nature, on dit il est dans un discours moraliste. Je ne suis pas dans un discours moraliste. Je suis dans un discours de démocrate. Et dans les exemples qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, la question de la justice par rapport aux personnes les plus vulnérables, regardez ce qui se passe au Canada, et vous auriez pu, Dimitri, je termine là-dessus, donner cet exemple au Canada où ils ont légiféré aussi dans ce domaine. On a proposé à une personne qui était en situation de précarité sociale l'euthanasie pour sortir de ses problèmes.
Ouais.
Je dis pas que c'est ce qui va se passer en France.
Mais ça
on a un président de la République qui est très lucide, mais vous voyez, l'encadrement va être extrêmement difficile. Et comment on va s'habituer à de nouvelles normes ?
4% des décès au Canada l'an dernier, c'était des situations d'aide à mourir ou des situations d'euthanasie. 4%. Le Premier ministre dont vous parliez, c'était Dries Van Agt, ancien Premier ministre des Pays-Bas. Merci beaucoup de votre expertise, Emmanuel Hirsch. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.
Merci. Il est 7h20, vous écoutez Europe 1 Matin, l'édito éco.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Vous nous parlez ce matin, Nicolas, d'un discret champion industriel français, Naval Group, qui a remporté la semaine dernière un très gros contrat de sous-marin avec les Pays-Bas.
Ouais, alors notre industrie de défense est petite, mais elle reste performante avec des entreprises pour le coup très connues, comme Dassault Aviation, qui produit l'avion Rafale, Thales, spécialisé dans les systèmes d'information et de renseignement, Airbus, bien sûr, qui fait des avions militaires et des satellites, Safran dans les moteurs d'avion, et donc, en effet, Naval Group. Alors, c'est le leader européen des bateaux de guerre et des sous-marins, et c'est donc Naval Group qui vient de remporter un appel d'offres hollandais, néerlandais, pour la construction de 4 sous-marins, qui seront produits en partie à Cherbourg et en partie aux Pays-Bas. Ce sont des sous-marins qui seront livrés aux alentours de 2035. En fait, c'est la version conventionnelle du sous-marin Barracuda, qui est un sous-marin nucléaire d'attaque. Donc là, ce ne sont pas des sous-marins nucléaires, mais enfin, c'est un contrat de plusieurs milliards d'euros.
Qu'est-ce qui explique le succès de Naval Group, Nicolas ?
Ouais, alors Naval Group était en compétition avec un Allemand, Thyssen Group, et le Suédois Saab. En fait, les sous-marins français sont de très très haute technologie, à l'image de ce que produit en fait toute notre industrie de défense, malheureusement parfois au détriment des quantités produites. Globalement, Naval Group marche très bien à l'exportation, hein, avec des contrats en Grèce, en Indonésie, en Inde. Et d'ailleurs, j'entends une musique hein, comme quoi la France devrait garder ses équipements pour se protéger ou pour les donner à l'Ukraine, par exemple. Mais l'industrie de défense, ça ne marche pas comme ça. Hein. Elle a besoin d'exporter pour gagner de l'argent, pour financer sa recherche et développement, pour diminuer ses coûts. Les exportations de matériel militaire sont la condition de notre souveraineté industrielle dans ce domaine.
Alors, il se trouve que les Pays-Bas sont le premier client étranger pour le sous-marin Barracuda. Ouais. Oui, parce que Naval Group, on s'en souvient, avait été victime d'une annulation de commande de sous-marin de la part de l'Australie il y a 2 ans.
Ouais, c'était une humiliation. Hein. C'est un contrat de 24 milliards d'euros qui avait été annulé, 12 sous-marins au profit des Américains. Vous vous en souvenez, hein, les Américains venaient de nouer avec l'Australie une alliance géopolitique en Indo-Pacifique, l'alliance AUKUS avec les Britanniques aussi, hein, d'où cette annulation cavalière. Écoutez, je suis quand même patriote et je suis assez satisfait de constater que l'Australie ne peut que regretter cette annulation.
Absolument.
Parce que les entreprises américaines ont des difficultés à produire, elles manquent de personnel, elles manquent de financement public, les Américains livrent en priorité l'armée américaine et les Australiens aujourd'hui ne savent absolument pas quand ils auront leur sous-marin. Alors vous voyez, faire confiance à la France, ça peut être un choix gagnant. Bravo Naval Group.
Voilà, il fallait signer français. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe 1. 7h23.
Europe 1.
Tous les soirs avec Europe 1, la journée se termine en beauté grâce à Joe Hume.
Oui, c'est un vrai bonheur. En plus d'écouter de la très bonne musique, on apprend plein de choses grâce à Joe. Et à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, Joe Hume met toute cette semaine à l'honneur la langue française avec en programme ce soir David Bowie qui va chanter un de ses plus grands tubes, mais dans notre langue, et puis une sélection de chansons de ceux qui ont fait à leur manière évoluer la langue française, comme Gainsbourg, Richard Gottener ou encore Renaud. Et Joe, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, de 21h à 22h sur Europe 1.
Bon réveil avec Europe 1 7h24, le journal permanent, Christophe Lamarre.
La FNSEA et les jeunes agriculteurs attendus ce matin à Matignon pour un point d'étape avec Gabriel Attal. Le Premier ministre va tenter de calmer l'impatience de la filière alors que la colère gagne à nouveau les exploitations. Grève et manifestation dans la fonction publique. Aujourd'hui, près de 6 millions d'agents appelés à défiler pour obtenir des augmentations de salaire à l'appel d'une intersyndicale. Plus de 120 rassemblements sont prévus en France. Nuit calme à la Courneuve après les violents incidents de la nuit dernière. Renforts policiers et blindés déployés autour du commissariat. Les gardes à vue des 9 suspects interpellés ont été prolongés hier soir.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Après 7 ans d'absence, MC Solar sera ce soir et demain sur la scène de l'Olympia. Vous revenez ce matin lors d'Autriche sur le parcours de Claude MC, star des années 90.
Oui, un rap poétique. Certains vont même comparer ses textes à Gainsbourg ou au poète Arthur Rimbaud. Avec son allure de grand adolescent souriant et son charisme, MC Solar est aussi surnommé à l'époque l'intello des banlieues. Il est l'invité d'Europe 1 en 1994. Il a 25 ans.
Disons que le mode de déplacement que j'ai choisi, c'est d'être pas spécialement ultra revendicatif, mais d'être plutôt pédagogue et de raconter des petites histoires.
MC Solar explose à une époque où le président Mitterrand et le ministre de la Culture Jack Lang veulent mettre en valeur le hip-hop, le rap, pour permettre aux populations des banlieues de s'émanciper grâce à la culture. Et c'est grâce aux mots, aux maniements subtils de la langue française que MC Solar dit avoir évité les clichés dans ses chansons.
On plaque des clichés, les uns après les autres. Oui, je n'aime pas ceci, oui, je n'aime pas cela, oui, la banlieue, il y a le feu dans le supermarché, etc. L'aide de la prose permet d'être un peu plus subtil, et puis on peut exprimer la modération quand on arrive à prendre son temps sur l'écriture.
Un break de batterie coule sur la FM, il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau.
MC Solar est un garçon qui aimait lire, qui a eu un déclic quand il était en classe de seconde.
Des livres sur les jeux de mots, des livres sur l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, des livres de Queneau. En bas de chez moi, il y avait des gens un peu plus âgés qui commençaient à rapper et tout ça. Donc je me suis dit, mais ça ressemble.
MC Solar reçoit même en 1998 le Grand Prix de la chanson de l'Académie française. La secrétaire perpétuelle de l'Académie, Hélène Carrère-Dancos, le raconte sur Europe 1 en 2018.
J'avais repéré ce garçon qui s'exprimait tellement bien. Le rap, c'est une langue magnifique, c'est un moment de culture. Ou bien, c'est, je dirais, c'est n'importe quoi, chacun croit qu'il peut faire. C'est ça la vérité.
Et certains ont calculé que MC Solar a le vocabulaire le plus riche des rappeurs français, utilisant dans ses chansons 8000 mots différents.
Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous envoie en croisière avec CroisiEurope, la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe. Alors écoutez le programme. Pendant 5 jours, vous allez naviguer au fil de la Garonne et de la Dordogne à la découverte des trésors vinicoles du Sud-Ouest, Blaye, Libourne, Saint-Émilion. À bord, tout est compris, hein, cuisine raffinée, boissons, animation, plus les visites guidées, les excursions à terre. C'est vraiment une semaine magique qui vous attend et vous pouvez la découvrir dès maintenant sur croisiEurope.com.
La question du jour, la voici. Alors en quelle année MC Solar reçoit-il le prix de la chanson de l'Académie française, 1994 ou 1998.
Pour tenter votre chance ce matin, c'est simple, vous envoyez croisière par SMS au 7 39 21, deux fois 75 centimes plus que du SMS, vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance. Je vous rappelle qu'à 8h10, Valérie Ayer est l'invitée de la grande interview Europe 1.
La tête de liste Renaissance aux élections européennes face à Sonia Mabrouk. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Il devait rencontrer Emmanuel Macron. Ce sera finalement Gabriel Attal. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont rendez-vous à 9h30 ce matin à Matignon. Ils dénoncent les promesses non tenues du président et du gouvernement. Témoignage dans un instant. Grève générale dans la fonction publique ce mardi pour de meilleurs salaires. Les enseignants, eux, vont manifester pour plus de moyens. Et les parents d'élèves les soutiennent, vous l'entendrez. Les pays frontaliers de la Russie, eux, toujours plus inquiets pour leur sécurité après la réaction de la réélection de Vladimir Poutine et sa volonté de continuer sa guerre en Ukraine. Reportage en Lettonie où l'on a rétabli le service militaire obligatoire.
Europe 1.
Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On nous mène en bateau, voilà ce que pensent les agriculteurs. Ils ne décollèrent pas. La promesse de recevoir au 15 mars toutes les aides de la PAC n'a pas été tenue par le gouvernement. La désillusion est immense. Hier, à Toulouse, ils ont à nouveau manifesté leur colère. Europe 1 vous propose d'écouter ce matin le témoignage de Florian. Son exploitation croule sous les dettes. Lui est au bout du rouleau.
Aujourd'hui, on se demande pourquoi on va continuer à faire des dossiers PAC. Qui peut continuer à travailler comme ça? On est obligé de demander des demandes tous les jours et derrière ça, on s'aperçoit qu'à l'arrivée, ça ne paye pas. Mes dettes, c'est 40 000 euros par an de remboursement, de frais de matériel. Mais c'est l'enfer, mais c'est d'où l'importance de verser en temps et en heure. On a 4 jeunes qui sont suicidés depuis le début de l'année. Vous imaginez pourquoi on est remonté? 4 jeunes qui sont suicidés, pourquoi? Parce que financièrement, ils n'y arrivaient pas. Et aussi de dire au président de la République qu'il y a 3 semaines, il nous a privatisé le salon de l'agriculture avec 4 000 CRS en disant qu'il serait au rendez-vous. Et qui n'est pas au rendez-vous. C'est intolérable. Et c'est là où c'est qu'on est pris complètement pour des merdes.
Florian, exploitant agricole du Sud-Ouest au micro européen de Charles L'Huillier. De quoi ajouter à la colère agricole le rendez-vous prévu aujourd'hui à l'Élysée entre le président de la République, la FNSEA et les jeunes agriculteurs est remplacé par un entretien avec Gabriel Attal. Ce sera ce matin à Matignon à 9h30. Il sera question donc des aides de la PAC, mais aussi d'une autre promesse du gouvernement, Margot Fodéré, sur l'épineuse question de l'eau.
Les agriculteurs veulent pouvoir stocker plus facilement de l'eau de pluie pour anticiper les épisodes de sécheresse. Le ministère de l'Agriculture assure que le projet de loi qui doit être présenté à la fin du mois répondra à ce sujet. Mais pour l'instant, aucune mesure concrète n'a été prise, relève Hervé Lapi, secrétaire général de la FNSEA.
On a trop de projets en France qui sont ouverts depuis 10, 15 ans, qui n'ont toujours pas vu le jour. Et comment est-ce qu'on améliore le dispositif réglementaire pour qu'on ait les autorisations plus rapides et que ça puisse se mettre en place?
Autre question encore sensible, les éleveurs qui attendent toujours le soutien annoncé de 150 millions d'euros. Et il y a aussi le dossier des retraites des agriculteurs. Mais pour Jean-François Lamassé, administrateur à l'Association Générale des Producteurs de Blé, le gouvernement ne fait que reculer sur ce sujet.
Il était prévu qu'on prenne les 25 meilleures années des agriculteurs pour leur rétablir leur retraite. C'est de rentrer en vigueur en 2026 et maintenant il nous parle de 2028. Encore du baratin.
De son côté, le ministre de l'Agriculture assume le tempo de ses décisions. Cette crise, elle ne se dénouera que dans le temps long, défendait encore hier Marc Fesneau en déplacement en Moselle.
Margot Fodéré.
Autre grogne, celle de la fonction publique, appelle à la grève générale ce mardi.
Santé, impôts, transport, la CGT, Force ouvrière appelle les 5 millions d'agents à se mobiliser pour réclamer de meilleurs salaires. 120 opérations prévues un peu partout en France. À Paris, un cortège va s'élancer à 14h de la place Edmond Rostand. Également mobilisés aujourd'hui, les enseignants des collèges et des lycées. Ils dénoncent le coup de rabot de 700 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale et donc le manque de moyens. Les parents d'élèves les soutiennent. Louis Salé. Ce sont les groupes de niveau qui ont agi comme un électrochoc, car cette réforme tire sur la corde des moyens humains. Yann Le Briérot est vice-président d'une association de parents d'élèves d'un collège de l'Indre-et-Loire.
On a des parents qui ont pris de leur temps personnel pour distribuer des tracts, par exemple, sur la voie publique. On a des problèmes de remplacement, d'indiscipline de certains élèves. Je pense que le personnel est en souffrance, en sous-effectif. C'est des phénomènes qu'on n'avait pas à ce niveau-là les années précédentes.
La semaine dernière, les parents ont pratiqué l'opération Collège Mort. Pendant une journée, ils n'ont pas envoyé leurs enfants en cours en soutien aux enseignants pour qu'ils n'aient pas à se déclarer grévistes. Une action organisée aussi en Seine-Saint-Denis où Mathieu Vaillant est parent d'élèves. Dans ce département, la mobilisation des familles s'amplifie depuis quelques semaines.
Je n'adhère à aucun syndicat, aucune association. Si tout d'un coup autant de parents se retrouvent motivés, c'est qu'il y a vraiment un discours qui passe pas, quoi. C'est pas aux profs de se mobiliser. Les profs, finalement, ils s'en foutent, quoi. Quelque part, c'est pas leurs enfants. Nous, c'est nos enfants. Il faut vraiment se battre contre ça, quoi.
Il a donc prévu de marcher aujourd'hui dans la capitale pour réclamer plus de moyens à l'éducation nationale.
Louis Salé, à Marseille, la grève de la fonction publique est doublée aujourd'hui d'une opération escargot des infirmiers libéraux. La cité phocéenne qui reçoit aujourd'hui Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, attendu pour faire un premier bilan de l'opération PlaceNet XXL menée cette semaine dans la cité phocéenne. 750 policiers mobilisés hier contre le trafic de drogue sur plus de 170 points de deal répartis dans 5 cités de la ville. Europe 1 en direct de Marseille dans le journal de 8h. Une nuit sous surveillance à la Courneuve en région parisienne hier. Deux blindés de la gendarmerie ont monté la garde devant le commissariat, attaqué dans la nuit de dimanche à lundi au mortier d'artifice. Deux policiers ont été blessés. La préfecture confirme 9 interpellations, 7 majeurs et 2 mineurs connus des services de police.
En Russie, c'était l'image de la soirée. Hier, Vladimir Poutine devant une foule sur la place Rouge, entouré sur scène de ses adversaires à la présidentielle.
Le chef du Kremlin réélu pour un 5e mandat avec le score très soviétique de 87% des suffrages. Il a célébré sa victoire mais aussi le 10e anniversaire de l'annexion de la Crimée, exhortant la foule au patriotisme. Et cette réélection de Vladimir Poutine inquiète les voisins de la Russie, dont la Lettonie, ce petit État balte membre de l'Union européenne et de l'OTAN, vient de rétablir le service militaire obligatoire pour les hommes de 18 à 27 ans. Le reportage de Robin Dussène sur la base militaire d'Adagi, à 30 km de la capitale Riga.
Dernier rangement et dernier texto avant une opération d'exploration nocturne. Ils sont 250 tous volontaires à avoir intégré les rangs. Parmi ces jeunes, Carlis qui vient de passer son bac.
Je n'avais jamais imaginé le service militaire comme une option. Si vous m'aviez dit à 17 ans que 2 ans plus tard je serais dans l'armée, je n'y aurais pas cru. C'est un peu étrange quand on y pense.
En Lettonie, l'invasion russe en Ukraine a marqué les esprits, alors Christers prend la menace très au sérieux.
Il pourrait nous arriver la même chose. Il est donc indispensable de rejoindre les rangs, car c'est comme un puzzle, c'est ensemble qu'on peut faire la différence.
À l'issue de leur formation militaire de 11 mois, les conscrits intégreront la réserve opérationnelle, avec de lourdes conséquences en cas de guerre, dont a conscience Edwards.
Quand l'heure X arrivera, je serai appelé et je serai prêt à défendre ma terre que j'aime tant.
Le ministère de la Défense a en tout cas réussi son opération séduction. Près de 40% des nouvelles recrues ont signé un contrat avec les forces armées lettonnes. Adagi, Robin Dussène, Europe 1.
Un mot de sport avec cette déception pour les fans de Grisou. Antoine Griezmann sera forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France en préparation de l'Euro 2024. Ce sera contre l'Allemagne et le Chili. Il est blessé à la cheville, alors il sera remplacé par le milieu de terrain de la Lazio Rome, Matteo Guendouzi.
Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal à suivre. L'édito international d'Europe 1, on va parler ce matin du Niger. Puisqu'après la France, voilà que ce sont les États-Unis qui à leur tour sont poussés dehors par la junte. Vincent Hervouette va nous raconter ça dans un instant.
Bon réveil avec Europe 1, il est 7h39.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Il est 7h42, merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre début de journée. Vous écoutez Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique avec Alexis Brazet. Nous parlerons de la bataille de Grenelle. Rue de Grenelle, donc siège du ministère de l'Éducation nationale. Qui en est le patron? Est-ce Nicole Belloubet ou le Premier ministre Gabriel Attal? On va voir ça, je pense que vous serez surpris. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, au sommaire ce jour, le jeu vidéo de la semaine. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose choses. Mythe de la Tour de Babel et aventure linguistique avec le jeu vidéo français Chants of Senar.
Le livre du jour également. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour, un polar à l'ancienne à l'université.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous revenez Vincent ce matin sur les mésaventures des Américains au Niger. Ils sont à leur tour poussés dehors par la junte qui a pris le pouvoir l'été dernier.
Oui, mais retenez-vous Dimitri, cachez cette joie mauvaise devant l'humiliation de vos amis. On compatit, on essaie au moins. Ce qui leur arrive est très injuste et ça l'est d'autant plus qu'ils ont tout fait pour rester sur place. On ne va pas dire qu'ils se sont couchés devant les mutins. Ils ont fait pire, ils leur ont léché les brodequins. D'abord, ils se sont gardés de condamner le coup d'État, comme le faisaient les Français, toujours donneurs de leçons. À la place, a débarqué la redoutable Victoria Nuland, sous-ministre de Joe Biden. Elle est entrée dans la légende à Maïdan en disant à haute voix ce que taisent en général ses collègues « Fuck l'Europe ». Au Niger, elle négocie le maintien des bases américaines et à l'évidence, elle se soucie toujours autant des Européens.
Alors, les Américains ne dénoncent pas l'arrestation du président élu Mohamed Bazoum.
Mais pendant 3 mois, ils ont fait mine de ne pas avoir remarqué qu'il avait disparu. Quand ils s'y résignent, ils suspendent leur coopération. C'est la loi, c'est automatique. Pour se faire pardonner, ils envoient un nouvel ambassadeur alors que Paris vient juste de réussir à exfiltrer le nôtre qui était assiégé dans son bureau. Enfin, à Noël, quand les derniers para-français amènent les couleurs et s'éclipsent en secouant la poussière de leurs Rangers, le ministre américain chargé de l'Afrique, la secrétaire d'État adjointe Molly Fee, annonce qu'elle espère reprendre rapidement la coopération en matière de sécurité et de développement.
Alors, Molly Fee croit que les militaires sont prêts à rendre le pouvoir aux civils.
Oui, elle s'illusionne comme nous-mêmes nous sommes illusionnés. Elle débarque sur place mardi dernier avec une autre ministre, la secrétaire adjointe à la Défense, et le patron des forces américaines en Afrique, une délégation de première classe, que les Nigériens font poireauter pendant 36 heures. Le palais garde porte-close, le chef de la junte les snob. Et une fois qu'ils sont partis, son porte-parole les assassine à la télé. Il dénonce l'attitude condescendante de la ministre, ses menaces de représailles, il accuse de ne pas avoir respecté le protocole. Un peu plus, il lui reprochait d'avoir volé le peignoir de l'hôtel. Heureusement que les Américains ont investi des centaines de millions de dollars dans la formation de l'armée nigérienne. Ils voulaient discuter de coopération dans la lutte antiterroriste et des partenaires étrangers de la junte. On leur répond, c'est pas vos oignons. D'ailleurs, votre présence est illégale.
Bon, est-ce que la rupture est consommée, Vincent? Les Américains vont-ils être expulsés du Niger?
Ils espèrent négocier. Leur base d'Agadez est précieuse. Cette ville fortifiée en plein désert a coûté 110 millions de dollars. Près d'un millier de militaires vivent sur place avec des avions gros porteurs et des drones qui surveillent le Sahel. Et à l'occasion, transforment en chaleur et lumière les suppôts de Daesh et d'Al-Qaïda. Il y a aussi une base secrète de la CIA près de la frontière libyenne. Et fermer tout ça serait un revers dans la lutte contre le terrorisme. Ça tomberait mal pour Joe Biden en campagne et ce serait désastreux pour l'image des Occidentaux sur le continent. Vous n'avez, Dimitri, aucune raison de vous réjouir de l'effacement des Blancs en Afrique. Ce gâchis annonce d'autres chaos. Le Premier ministre du Niger revient en effet de Moscou. Il a fait escale à Téhéran, qui est intéressé par l'uranium de la mine d'Arlit. C'est Poutine qui commence bien la semaine, et ce sont les djihadistes et autres barbus, trafiquants de drogue et de migrants, qui tirent de joie ce matin.
Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.
7h-9h, Europe 1 matin.
Alors, en livre du jour, un polar ce matin, Nicolas Caro, sur fond de Première Guerre mondiale.
Mais oui, il faut dire que l'auteur Jean-Yves Le Naour est à la fois historien, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale et romancier, donc, puisqu'il s'agit d'un roman, d'un vrai et d'un bon. Ça s'appelle Mort à l'université. C'est chez Calman Levy.
Que raconte ce livre?
Ça commence en 2019 à Toulouse avec le capitaine Tarat à la brigade criminelle. Il n'est pas beaucoup apprécié, voire complètement placardisé, parce qu'il a fait venir les bœufs carottes au commissariat il y a quelques temps, on saura pourquoi plus tard. On lui donne quand même avec mépris une affaire à traiter, une disparition inquiétante, un homme, 32 ans, qui n'est pas rentré au domicile conjugal. Tu parles, 9 fois sur 10, c'est juste une banale histoire d'adultère, ou alors un burn-out avec changement de vie radical, et le type s'est tiré en Corrèze ou aux Ambèzes, comme écrit Le Naour. Mais vous vous doutez bien que ce sera plus compliqué que ça, sinon ça ferait pas un très bon roman. Le capitaine Pascal Tarat se rend donc chez Clémentine et François Godefroy, c'est elle qui a harcelé les policiers pour qu'il se bouge. Et c'est donc son mari qui a disparu, François Godefroy, prof d'université, spécialiste de la Première Guerre mondiale.
Tiens, tiens, on y vient.
Et voilà, comme l'auteur, le capitaine écoute donc Madame Godefroy, lui raconte que son mari est parti faire son footing le long du canal du Midi, comme souvent, et qu'il n'est pas rentré. Tous ses papiers sont là, carte bleue, tout. Pascal demande une localisation du portable, il y a un signal. Alors il délimite un secteur de recherche et il se balade à la recherche du prof en faisant sonner son téléphone au cas où. Et ça marche, il le retrouve mort dans un conduit d'évacuation entouré d'orties. Un meurtre, ça rigole plus. Il commence son enquête avec le reste du commissariat qui espère qu'il se plantera. Et l'enquête commence avec une conversation SMS édifiante retrouvée dans le téléphone de la victime, des insultes de la part d'un autre prof. Les deux candidataient pour le même poste et c'est Godefroy qui l'a eu. Or, si Godefroy disparaît, c'est l'autre qui obtient automatiquement le poste. Un peu trop gros quand même. Même si, le médecin légiste appelle, c'est une balle dans la nuque qui a tué Godefroy. Une balle d'un pistolet automatique Star, calibre 7,65. Une arme de musée. C'était le modèle utilisé par les officiers français en 1914. Et c'est parti pour une enquête qui mêle polar à l'ancienne, histoire avec un grand H et jeu de pouvoir à l'université.
Mort à l'université donc, de Jean-Yves Le Naour chez Calman Lévy. Merci Nicolas. Caroline Speller, au rayon jeux vidéo cette semaine, vous nous proposez Chance of Senar, sacré meilleur jeu vidéo de l'année à la cérémonie des Pégases, c'est-à-dire les Césars du jeu vidéo.
Une fois de plus, oui Dimitri, le jeu vidéo indépendant français nous prouve qu'il a cette créativité unique pour se distinguer. Chance of Senar est un jeu d'aventure linguistique et de réflexion. Il s'y cache une vraie profondeur. On ne s'impose pas par la force, mais par l'empathie et la résolution de mystères, comme laisse entendre le titre du jeu.
Senar, dans la Bible, c'est le nom de la région où aurait été érigée la tour de Babel.
Oui, le jeu se réapproprie le mythe de Babel. Tout comme dans l'Ancien Testament, la population de Chance of Senar se retrouve divisée par la création des langues. Nous, on joue une sorte de voyageur qui arrive en terre inconnue. Les gens parlent différents langages imaginaires qu'on ne connaît pas. Une terre qui prend la forme d'une tour à explorer, qui puise ses influences artistiques de la BD franco-belge avec notamment Moebius, mais aussi de l'architecture romane comme la basilique de Saint-Sernin, ce qui n'est pas un hasard puisque le studio de Chance of Senar est basé à Toulouse.
Décidément, vous êtes...
Oui, on est raccord ce
exactement.
Matin.
Bon, le langage, c'est donc le cœur de Chance of Senar. Comment on arrive à décrypter ces langues inconnues?
Alors Dimitri, tout passe par l'observation, l'interaction avec les éléments du décor et les habitants via des bulles de texte. Petit exemple, au début de notre aventure, on se retrouve face à une porte, un levier à activer et un panneau avec trois glyphes. Avec cette mise en scène, on arrive à en deviner le sens. Ici, ouvrir, fermer et porte. On écrit alors dans un journal notre déduction. Et plus on réussit à traduire les glyphes, plus on comprend nos interlocuteurs, leurs demandes et notre quête. Mais surtout, on devient le pont entre les cinq peuples de la tour pour tenter de les réconcilier. C'est donc un jeu vidéo pour les férus d'énigmes et d'aventures enchanteresse, Dimitri.
Voilà, Chance of Senar, donc à télécharger. C'est sur toutes les consoles et PC. Merci Caroline Speller, merci Nicolas. Merci à tous les trois. On se dit rendez-vous demain pour un nouveau Club Culture. Dans un instant, votre édito politique avec Alexis Brézé, juste après le journal permanent sur Europe 1, Nina Pavan.
École, santé, impôts, transports, les fonctionnaires en grève aujourd'hui pour réclamer de meilleurs salaires. 120 manifestations prévues un peu partout en France. Les agriculteurs toujours en colère. La FNSEA et les jeunes agriculteurs rencontrent Gabriel Attal ce matin à 9h30. Il dénonce les promesses non tenues du président et du gouvernement. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti attendus en fin de matinée à Marseille pour un premier bilan de l'opération PlaceNet menée contre les trafiquants de drogue sur plus de 170 points de deal. Europe 1 en direct de la cité phocéenne dans moins de 10 minutes. Le projet de loi pour l'aide à mourir est présenté aujourd'hui devant le Conseil d'État. Ce texte sur la fin de vie sera ensuite discuté au Parlement à la fin du mois de mai.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors depuis plusieurs semaines, Alexis, un bras de fer opposait en coulisses Gabriel Attal à Nicole Belloubet à propos du fameux choc des savoirs lancé par le Premier ministre quand il était encore à l'éducation et que Madame Belloubet est censée mettre en musique. Depuis ce week-end, Alexis, eh bien on sait qui a gagné ce bras de fer.
Oui, on sait et c'est Nicole Belloubet. Gabriel Attal s'est engagé, vous vous en souvenez, à mettre en place des groupes de niveau en français et en mathématiques dans tous les collèges. Nommée à sa place sous le Grenelle, Nicole Belloubet avait rétorqué qu'elle préférait créer des groupes de besoins. Gabriel Attal était revenu à la charge en répétant « Non, vendredi encore, non, qu'il y aurait bien des groupes de niveau ». Eh bien, le journal officiel paru ce dimanche et sans appel, les groupes seront c'est écrit, constituée en fonction des besoins des élèves, des besoins pas du niveau, Belloubet 1, Attal 0. Bon, alors vous allez me dire, groupe de niveau, groupe de bousin, tout besoin, tout ça sont des mots, des débats byzantins. Pas du tout. Derrière la querelle sémantique, ce sont deux philosophies qui s'affrontent. Dire qu'on est pour les groupes de niveau, c'est afficher sa volonté de rompre symboliquement avec le collège unique et revendiquer un certain élitisme. C'est soutenir que des classes par trop hétérogènes ne sont souhaitables ni pour les meilleurs élèves, tirés vers le bas, ni pour les moins bons, qui ne peuvent pas bénéficier d'une pédagogie adaptée. Pour aller vite, c'est une vision conservatrice, largement soutenue dans l'opinion, et c'est bien pour ça que, après sa démonstration sur l'abaya, Gabriel Attal avait fait de sienne. À l'inverse, plaider pour de simples groupes de besoins temporaires, destinés à répondre à des difficultés ponctuelles, c'est récuser le fait qu'il y aurait des bons et de moins bons élèves, mais simplement des compétences en cours d'acquisition. C'est refuser toute idée de sélection assimilée à du tri social, hein, c'est le mot de Nicole Belloubet. En gros, c'est la vision que partagent la gauche et les syndicats qui font la loi au ministère de l'Éducation depuis un demi-siècle, avec les résultats que l'on sait. Et bien, pour Attal, l'école est finie. Une fois de plus, ils ont gagné.
Mais comment expliquez-vous, Alexis, que Nicole Belloubet ait pu imposer ses vues sur Gabriel Attal ?
Alors, on dit que la ministre de l'Éducation a menacé de démissionner si les mots « groupe de niveau » étaient utilisés. Nos confrères de Marianne ont même écrit qu'elle avait reçu le soutien de Brigitte Macron. Enfin, à la limite, peu importe. Vous savez, quand un ministre sous la Ve République impose son point de vue au chef du gouvernement, c'est très simple, c'est que le ministre indocile a obtenu, d'une façon ou d'une autre, le soutien du président de la République. Et c'est ça aussi que raconte cette histoire. Le peu de considération qu'Emmanuel Macron, depuis le jour où il l'a désigné, semble avoir pour son Premier ministre. Il l'avait nommé, paraît-il, pour tout bousculer, régénérer le quinquennat, renouer avec l'esprit de disruption. Et deux mois après, Gabriel Attal se retrouve coincé entre des ministres qu'il n'a pas choisis, qui défient ouvertement son autorité, et un président qui le court-circuite allègrement et qui dévore tout l'oxygène politique en parlant soirée matin. Ajoutez à cela des sondages à la baisse, et vous conviendrez que pour le 35e anniversaire de Gabriel Attal, l'ambiance n'est pas exactement à la fête.
Ouais, c'était le 16 mars, hein, l'anniversaire en question. La campagne européenne qui s'engage va peut-être changer les choses, Alexis. On nous l'a assez dit quand il a été nommé, Gabriel Attal, c'est l'arme anti-Bardella du président.
Ah, vous croyez ? Pour l'instant, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, qui fait la stratégie, la tactique, la liste, les déplacements, les discours, et puis surtout les manœuvres de diversion, on a l'impression qu'il n'a pas très envie de lui abandonner le rôle. Mais vous avez raison. Si les élections européennes tournent à la bérésina pour les macronistes, alors là, ce sera à n'en pas douter la faute de Gabriel Attal. Mais si finalement la liste conduite par Valérie Hayer tire son épingle du jeu, ce sera grâce, évidemment, à Emmanuel Macron.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, la transidentité des mineurs. Le rapport qui sonne l'alarme sur la prise en charge médicale des jeunes en questionnement de genre. Des sénateurs, les Républicains, vont déposer une proposition de loi pour interdire les bloqueurs de puberté. On en reparlera à 8h40 dans la revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde. Je signale aussi ce grand papier sur cette opération PlaceNet XXL qui a commencé hier à Marseille avec comme objectif de tuer la pieuvre du narcotrafic. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. Nous serons en direct de Marseille, précisément dans le journal de 8h dans un instant. Merci beaucoup Alexis Brézet, bonne journée.
Il est 7h56, merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée, nous sommes le mardi 19 mars.
Et nous fêtons ce jour Saint-Joseph charpentier à Nazareth, époux de Marie. C'est lui qui donne le nom de Jésus au Fils de Dieu. Pourtant, Joseph ne prononce pas une seule parole dans le récit évangélique. Sachez que depuis 2013, sur décision du pape François, le nom de Joseph est systématiquement cité au cours de chaque messe. Bon réveil avec Europe 1, au programme de la prochaine heure. À 9h moins le quart, Emmanuel Ducrot nous parlera de la proposition de Najat Vallaud-Belkacem. Rationner Internet 3 gigas par semaine, c'est-à-dire pas plus de 3 heures de vidéo, pour vous donner une idée. Et vous parliez de Valérie Hayer et il y a quelques instants, Alexis Brézet. Eh bien, figurez-vous que dans un quart d'heure, elle est l'invitée de la grande interview Europe 1, CNews face à Sonia Mabrouk. Oh, nous sommes le mardi 19 mars, il est 8h.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Opération contre les dealers et le trafic de drogue à Marseille. Objectif, reprendre la cité aux narcotrafiquants. 750 gendarmes et policiers mobilisés rien qu'hier. Et les ministres Gérald Darmanin et Dupond-Moretti attendus sur place aujourd'hui. Nous sommes à Marseille dans un instant. Parents séparés, gardes alternés. Le gouvernement, à partir de demain, va expérimenter la semaine différenciée pour les fonctionnaires qui ont la garde de leurs enfants une semaine sur deux. Europe 1 vous dévoile dans un instant le détail de cette mesure. Des services publics fermés également aujourd'hui, les écoles, les impôts, Météo France. Tous réclament de meilleurs salaires et plus de personnel. Dans ce journal également, les européennes et le doute qui gagne renaissance. Les attaques systématiques visant le Rassemblement national sont-elles productives? Eh bien non. C'est ce qui ressort en tout cas des sondages décryptage à suivre. Eh bien justement, on va en parler des européennes avec votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Effectivement, bonjour à vous Dimitri. Bonjour à tous. Eh bien pour notre invité, ce sera sa première interview sur notre antenne. C'est la tête de liste Renaissance, Valérie Ayer. Quelle Europe défend-elle? Et puis, comment faire face, comme vous l'avez dit, au bulldozer Bardella? À tout à l'heure.
Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un seul mot d'ordre, en finir avec le trafic de stupéfiants. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et son homologue garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sont attendus à Marseille ce matin dans le quartier sensible de la Castellane. Depuis hier, cette cité gangrénée par le trafic de drogue est quadrillée par les forces de l'ordre. Opération Place Nette d'une ampleur inédite. Bonjour Stéphane Burgat.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 à Marseille en direct de la Castellane. Au total, 4000 policiers et gendarmes vont être mobilisés pendant plusieurs semaines. Hier, ils étaient déjà 750. Comment se déroule cette opération, Stéphane ?
Bah écoutez, c'est une démonstration de force. Voilà, exemple hier à la cité La Castellane, on muscle un dispositif qui est déjà éprouvé ici. Une arrivée en nombre des policiers, des CRS à tous les accès, des équipes cynophiles pour chercher les cachettes de drogue, d'armes, enlever les barricades ou encore les voitures volées. Et il s'agit à chaque fois de pilonner, c'est le terme employé par la préfecture de police, pilonner les points de deal, c'est-à-dire faire des saisies, interpeller, perturber le business tout simplement pendant les heures d'ouverture. Mais cette fois, le dispositif devrait s'étendre pour essayer d'obtenir le même résultat qu'à la cité La Paternelle. Débarrassé en ce début d'année des réseaux. C'est la vitrine quelque part de la politique du ministre de l'Intérieur ici. Et cette nouvelle phase de l'opération devrait durer plusieurs semaines. Elle a été préparée dans le plus grand secret depuis plusieurs mois, c'est ce qu'on apprend. Et elle arrive en réponse à quelque part au signal d'alarme qui avait été lancé tout récemment par des magistrats qui parlaient d'une mexicanisation ou encore d'une bataille en passe d'être perdue face aux dealers.
Alors, donc opération Place Nette XXL, Stéphane, hein, c'est le nom de cette opération qui a démarré hier. Cela dit, ça fait quand même déjà plusieurs mois que les forces de l'ordre porte des coups sévères aux deux principaux clans de trafiquants qui se disputent Marseille.
Oui, ceux-là, il y a tous les autres. À chaque fois, on faisant tomber non seulement les petites mains, mais aussi des chefs. La préfecture de police revendique déjà 90 arrestations en l'espace d'un an, parfois même à l'étranger, en Espagne, au Maroc, en Algérie. Et là, ce sont des patrons qui tombent à l'étranger, notamment les patrons des clans Yoda ou encore de la Castellane. Plusieurs commandos de tueurs ont aussi été mis hors d'état de nuire. La semaine dernière, encore, ça, on l'avait suivi sur Europe 1. On apprend aussi ce matin que les 50 plus gros trafiquants seraient actuellement dans la ligne de mire. Le procureur de Marseille, qui nous annonçait, par exemple, l'entrée en fonction de magistrats instructeurs à Dubaï ou encore à Sainte-Lucie, eh bien tout pourrait aller très vite. C'est ce que viennent annoncer en tout cas Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti.
Merci beaucoup Stéphane Burgat en direct de Marseille pour Europe 1.
Les forces de l'ordre extrêmement mobilisées face à des délinquants qui semblent ne plus reculer devant rien, pas même devant le risque de la prison.
L'attaque du commissariat de la Courneuve dimanche soir le prouve. Pourtant, le code pénal a été durci. Désormais, les auteurs de violences contre les policiers risquent 10 ans de prison. Mais ce n'est manifestement pas assez dissuasif. William Molinier.
Plus de 40 policiers sont blessés chaque jour. La première cause des blessures est l'agression par un tiers. Cette courbe ne fait qu'augmenter depuis 3 ans, alors que la peine théorique pour les auteurs de violences contre les forces de l'ordre est passée de 7 à 10 ans de prison. Preuve pour Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance, qu'il faut instaurer des peines minimales.
L'application, oui, par les tribunaux est nettement insuffisante. Ce qu'on veut, c'est une automaticité, c'est-à-dire qu'un seuil en dessous duquel les magistrats, le tribunal, ne pourra pas descendre.
En 2021, le gouvernement Castex excluait cette proposition, la jugeant contraire à la Constitution.
Tout est évolutif. La Constitution elle-même évolue. On a bien vu là que l'IVG avait été constitutionnalisée. Donc les lois également évoluent, heureusement. C'est aussi ça, un état de droit, ça dit. Donc, il ne faut rien s'interdire.
Dans les faits, la justice sanctionne faiblement les auteurs de violences contre les policiers. En 2019, dernier chiffre disponible, la peine moyenne prononcée était de 8 mois de prison ferme seulement.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
L'avertissement de Joe Biden cette nuit à Benjamin Netanyahou. Une offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza serait une erreur, estime le président américain.
Et hier soir, à l'occasion des 80 ans du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Emmanuel Macron a rappelé la nécessité qu'Israël respecte le droit international dans sa guerre contre le Hamas, rappelant également que la France se montrerait intraitable face à l'antisémitisme.
Le chef de l'État, qui n'a qu'une idée en tête, remporter les élections européennes le 9 juin prochain.
C'est assez mal parti. Les sondages sont loin de donner la majorité présidentielle gagnante. C'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui est en pole position. Les soutiens du président craignent donc une débâcle et certains de ses fidèles, Arthur Delaborde, critiquent clairement la stratégie défendue par Emmanuel Macron.
Sondage après sondage, depuis des mois, la dynamique en faveur du Rassemblement national se confirme pour tenter de l'enrayer. La stratégie choisie par le chef de l'État est simple, dramatiser la situation en Ukraine et attaquer sans relâche le parti de Marine Le Pen sur ses liens avec la Russie. Une ligne de plus en plus contestée. C'est inefficace, nous sommes nombreux à le ressentir sur le terrain, confie un cadre de la Macronie. D'une part, faire du RN notre cible unique ne mobilise plus nos électeurs. D'autre part, ça les aide en les plaçant au centre du jeu, explique-t-il. Au-delà de cette polarisation extrême du débat, notre aile gauche nous fait payer le virage droitier d'Emmanuel Macron, analyse un stratège du camp présidentiel, qui espère que l'inscription de l'IVG dans la Constitution et la future loi sur la fin de vie feront revenir des électeurs déçus. En parallèle, le risque, c'est que les signaux progressistes envoyés par le président nous éloignent encore plus de la droite, relève un conseiller de l'exécutif, qui assure qu'à ce stade, la droitisation timide et non assumée n'a fait gagner aucune voix.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. 8h07 sur Europe 1, la fonction publique en grève. Aujourd'hui, les agents réclament des hausses de salaire et davantage de moyens humains et matériels, notamment à Météo France, à l'hôpital ou à l'école. Les fonctionnaires qui vont pouvoir expérimenter à partir de demain un nouveau dispositif, la semaine différenciée. Gabriel Attal l'a annoncé dimanche. Il s'agit d'aménager le temps de travail des parents séparés ou divorcés qui s'occupent de leurs enfants en garde alternée. Europe 1 est en mesure ce matin de vous livrer les détails de ce dispositif. Barthélémy Philippe, en quoi consiste-t-il exactement ?
Eh bien, l'idée est simple, libérer du temps pour les parents qui gardent leurs enfants seuls sans réduire pour autant le temps de travail légal. Concrètement, les employés qui adopteront la semaine différenciée travailleront bien 140 heures par mois, soit 35 heures en moyenne par semaine. Mais selon les informations d'Europe 1, leur durée de travail changera une semaine sur deux. Une semaine de 4 jours et 33 heures de travail quand ils garderont leur enfant, 5 jours et 37 heures quand ils seront sans enfant. Dès demain, le ministre Stanislas Guérini va lancer l'expérimentation dans la fonction publique. Elle se fera sur la base du volontariat. Cette nouvelle formule s'ajoute à la semaine en 4 jours déjà expérimentée dans quelques services publics et certaines entreprises privées. Pour rappel, elle consiste à concentrer les 35 heures sur 4 jours au lieu de 5.
Barthélémy Philippe.
Le football, Antoine Griezmann, forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France face à l'Allemagne et au Chili.
Oui, le champion du monde de 32 ans souffre de la cheville. Il faudra donc se passer du meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Cyril de la Morinerie pour Antoine Griezmann, c'est la fin d'une belle série, hein, 84 matchs consécutifs en sélection nationale.
Oui, pendant près de 7 ans, Antoine Griezmann n'a manqué aucune rencontre des Bleus. La dernière fois que le Mâconnais est resté sur le banc, c'était en juin 2017, lors d'un match amical face à l'Angleterre. Le vice-capitaine des Bleus, auteur de 44 buts en 127 sélections, est le métronome de l'équipe de France et il est pour le moment irremplaçable, assure le sélectionneur Didier Deschamps.
Avec les qualités d'Antoine dans son registre et quand c'est l'influence d'Antoine, oui, donc c'est... On ne pourra pas trouver un joueur qui a ces caractéristiques-là.
Et le consultant d'Europe 1, Alain Giresse, est lui aussi impressionné par l'incroyable série réalisée par Antoine Griezmann.
C'est unique. Maintenant, je dirais qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant, que Antoine Griezmann puisse se remettre de cette blessure et qu'on le retrouve tout à fait... prêt à jouer cet euro.
Antoine Griezmann va quitter ce matin Clairefontaine, mais il espère bien disputer cet été son 3e euro avec les Bleus.
Cyril de la Morinerie.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La tête de liste Renaissance pour les élections européennes, Valérie Ayé, est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, 8h10.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Merci d'écouter Europe 1 tout de suite. Valérie Ayé est l'invitée de Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Valérie Ayé.
Bonjour.
Et merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la tête de liste Renaissance aux élections européennes et beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs vous découvrent ce matin. Alors Valérie Ayé, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter ou nous résumer l'Europe que vous défendez et pour laquelle vous êtes engagée dans ce scrutin ?
Oui, l'Europe que je défends, c'est une Europe de conviction. Moi, je suis convaincue qu'on a besoin d'Europe, que les Français ont besoin d'Europe. Et depuis 2019, au Parlement européen, avec mes collègues de la majorité présidentielle, on transforme l'Europe. Parce que oui, on croit dans l'Europe, mais on a aussi besoin de la réformer. Et depuis 2019, on est en responsabilité et à la manœuvre. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de ce qu'on a fait. Je vous en donne un. Il y a 5 ans, l'un des points qui faisait l'actualité de cette campagne, c'était le fameux plombier polonais. Qui parle encore du plombier polonais ? Plus personne, tout simplement parce que sur ce mandat-là, on a résolu le problème pour s'assurer qu'à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Donc cette Europe, c'est une Europe de conviction, avec la certitude et la conviction que c'est en renforçant l'Europe qu'on renforcera la France, et évidemment avec cet enjeu de la réformer de l'intérieur.
Réformer de l'intérieur, dites-vous, donc quand vous dites qu'il faut plus d'Europe, c'est pas plus de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas plus de l'Europe de Madame von der Leyen, si je vous entends bien, c'est une autre Europe, vous aussi.
C'est plus d'Europe et mieux d'Europe.
On a construit
depuis 2019 des coalitions, texte par texte, au Parlement européen, pour transformer cette Europe. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait. Par exemple, la régulation des géants du numérique, pour s'assurer que quand les enfants vont sur Internet, ils ne sont pas soumis à des fake news ou à des contenus haineux. C'est une régulation qui est inédite au monde. On a fait le chargeur unique, par exemple, sur les téléphones, pour qu'il y ait plus, on soit plus embêté entre 15 chargeurs différents selon les outils qu'on a à disposition.
Le plan
de relance, oui. Par exemple, qui a permis de sauver des centaines de millions d'emplois.
Très concrètement, sur nos agriculteurs, ils manifestent de nouveau leur colère. Valérie Ayé, ils seront reçus tout à l'heure, en tous les cas pour les syndicats, par le Premier ministre. Ils estiment qu'ils n'ont pas été entendus et pardonnez-moi même qu'ils ont été, entre guillemets, baladés. Lourdeur administrative, retard, entrave. Quelle Europe vous leur proposez ?
D'abord, moi, en 2020, au Parlement européen, dans les négociations, je me suis mobilisée personnellement pour sécuriser le budget de la politique agricole commune globale, mais a fortiori pour les agriculteurs français. C'est 10 milliards d'euros chaque année qui vont aux agriculteurs français. C'est important et c'est pas rien
et
de l'avoir négocié.
Et nous un grand contributeur aussi, il faut le dire.
On est contributeur net, oui. On contribue au budget européen, on en reçoit beaucoup aussi. Je le dis, la politique agricole commune, c'est 10 milliards d'euros par an. En contribution nette, de manière générale, la France donne 9 milliards au budget européen. Et au total, l'Europe nous rapporte combien ? Plus de 124 milliards d'euros chaque année au titre du marché intérieur, donc, c'est-à-dire les échanges commerciaux. Donc oui, l'Europe, c'est un projet positif et économiquement, la France, elle est gagnante. Et nos agriculteurs, moi, je ne veux pas opposer les agriculteurs à l'Europe. Je suis fille d'agriculteur, ça a été beaucoup dit, et je sais combien l'Europe apporte à nos agriculteurs et je sais combien nos agriculteurs apportent à notre modèle et à l'Union européenne. Donc, on a sécurisé le budget de la politique agricole commune. Moi, je voudrais quand même dire que j'entends certains opposants à l'extrême droite et à la droite, notamment, qui courent les plateaux télé en disant la politique agricole commune sur la manière dont elle a été négociée, sur les modalités, elle n'est pas bonne. C'est de l'hypocrisie absolue. Ils l'ont votée, cette politique agricole commune, mais ils ne votent pas par ailleurs, donc ils votent les contraintes, mais ils ne veulent pas le budget qui va avec. Donc, cette PAC, on l'a sécurisée en budget, on l'a négociée, elle est plus verte, plus rémunératrice pour les agriculteurs. Après, j'entends la colère du monde agricole, je l'ai entendue en France, parfois ailleurs aussi en Europe, je l'entends en Mayenne, là où je suis.
Et comment vous y répondez ? Je vous donne juste une question concrète, par exemple, vous dites, et vous avez un héritage, si je puis dire, familial, et une histoire familiale, mais est-ce que l'Europe que vous proposez, Valérie Ayé, c'est celle du Green Deal, celle du poulet ukrainien, de certains accords de libre-échange validés par votre groupe Renew, notamment avec, je pense, au Kenya ou au Chili, est-ce que cette Europe-là, qu'il faut proposer aux agriculteurs ?
C'est l'Europe qui vient et qui accompagne le monde agricole avec des aides pour la politique agricole commune, avec une simplification administrative, c'est fondamental, c'est un serpent de mer, enfin on avance et on a des propositions concrètes qui sont sur la table. C'est l'Europe de la lutte contre la concurrence déloyale, en interne en Europe, mais aussi par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. On partait de loin, très loin.
Les clauses miroirs, pour l'instant, c'est des clauses fictives.
Alors, la réciprocité, on est en train d'y travailler. Il faut simplement avoir à l'esprit que l'Union européenne, oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué pourquoi ? Parce qu'on négocie à 27 et que il faut qu'on puisse tirer la corde entre guillemets de notre côté et faire porter la voix de la France. On y arrive, on a changé la donne depuis 2019 sur les accords de commerce, c'est la même chose. Aujourd'hui, en fait, il y a des bons accords, il y a des mauvais accords. Les mauvais accords, exemple, le fameux accord Mercosur avec les pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, c'est un mauvais accord. Donc on a dit non parce qu'il est trop, parce qu'il est dangereux pour nos agriculteurs. Et il y a des bons accords, c'est les accords de nouvelle génération qui permettent de protéger nos filières.
Exemple, le CETA qui va être soumis au Sénat ce jeudi.
CETA, là aussi, on a un excédent commercial avec le CETA. Les agriculteurs ont besoin d'exporter. Je vous donne un exemple. Moi, je viens de la Mayenne. Mes parents sont agriculteurs. Il y a une laiterie qui s'appelle Belle, je ne vais pas faire de la publicité, mais qui s'appelle Belle en Mayenne, qui compte 700 exploitations qui livrent dans cette laiterie dans les pays de la Loire. C'est 12 000 emplois à la clé. Les exploitants qui livrent chez Belle, ils font par exemple du kiri, que tout le monde connaît, et ils exportent au Japon ou ailleurs dans le monde. Vous allez expliquer à ces exploitants, à ces producteurs laitiers, qu'on va fermer les opportunités commerciales. C'est quoi la suite pour eux? Donc c'est cette réalité-là aussi qu'il faut rappeler. Les nouveaux accords de commerce sur lesquels on est en train de travailler, c'est respect des accords de Paris, meilleure protection de nos filières, et voilà, c'est vraiment ce qu'on
porte. Donc des bons et des mauvais accords, dites-vous. Valérie, et dans les sondages, la liste de Jordan Bardella tutoie les 27 ou parfois les 30% d'intention de vote. Vous accusez un certain retard. Il est vrai, là, ces derniers jours, il s'est un peu restreint. Quelle est votre stratégie pour contrer un tel retard? Et est-ce que c'est encore possible?
D'abord, parler d'Europe.
Vous parlez beaucoup de RN, surtout.
On parle d'Europe. Moi, je parle d'Europe. Parfois, on me dit que quand je ne parle pas du RN, on me ramène au RN. Et quand je parle du RN, on me dit vous ne parlez que de l'extrême droite. Parler d'Europe. Nous, dans cette campagne, on veut parler d'Europe aux Français. Ce n'est pas le cas d'une partie de nos oppositions. Et puis, la première des choses à faire, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, c'est rappeler notre bilan. Je vous rappelle que nous, majorité présidentielle, on est 23 députés. Dans mon groupe politique. Le Rassemblement National, c'est combien de députés? C'est 23. C'est quoi leur bilan? Nous, on a protégé l'emploi des Français avec le plan de relance, l'extrême droite s'y est opposée. On a protégé le pouvoir d'achat des Français avec la réforme du marché européen de l'énergie. L'extrême droite veut sortir de ce marché européen de l'énergie. On a protégé la santé des Français avec la production de vaccins. L'extrême droite voulait des vaccins russes, Sputnik. On protège les droits des femmes, par exemple, les salaires, les enjeux de d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. L'extrême droite s'oppose.
Madame, si votre bilan est si bon, pourquoi les intentions de vote sont si hautes pour le Rassemblement national?
On n'a pas commencé la campagne aujourd'hui, on s'y lance. Et clairement, c'est un... Quel est notre bilan? Deux, quelle est notre proposition et notre vision pour le projet européen? C'est ce qu'on va aller expliquer et dire aux Français dans les prochaines semaines.
Est-ce que vous expliquerez aussi votre comparaison, je vous demande de le faire ce matin, entre Marine Le Pen et Daladier, qui a fortement interpellé? C'est vrai qu'on se dit, est-ce que vous saviez que Daladier a été mobilisé dès août 44, qu'il a été mobilisé comme simple soldat, qu'il a combattu 4 ans dans les tranchées, qu'il a connu Verdun, et que je pense qu'en termes de leçons de courage, il n'a pas grand-chose à apprendre? Comment vous est venue cette comparaison à l'esprit? Comment vous êtes-elle venue?
L'idée, c'était pas de comparer les acteurs, mais les décisions. Si vous reprenez mon discours, j'ai évoqué les mêmes débats, les mêmes mots, les mêmes arguments. C'est-à-dire, promettre la paix, ils ont importé la guerre. Aujourd'hui, on a un débat, dans le débat français et européen, entre ceux qui prétendent que la guerre en Ukraine n'a aucune incidence sur nous et sans aucun risque de remettre en cause notre indépendance, et nous qui sommes absolument convaincus, parce que c'est la réalité des choses, que la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité, et qu'il faut ne pas tomber dans le renoncement.
Mais si je vous entends bien, il y aurait un camp de la raison, ce serait vous, et un camp de la déraison, voire de la collaboration, ce serait le Rassemblement National, les Insoumis et Reconquête?
Un camp du renoncement et de la capitulation.
Vos mots sont forts, hein, quand même.
Écoutez,
pour des élus.
D'abord, on connaît les liens entre notamment l'extrême droite et la Russie de Vladimir Poutine. Ces liens, ils ont été documentés, pas par moi, ils ont été documentés par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, présidée par un député Rassemblement national, qui conclut au fait que l'extrême droite est la courroie de transmission du Kremlin.
Jusqu'à aujourd'hui,
ce sont vos confrères du Washington Post qui révèlent ça aussi.
Est-ce que vous le diriez aujourd'hui, Valérie Ayé, parce que depuis l'invasion de l'Ukraine, les positions ont été très tranchées?
Non, les positions ne sont absolument pas
toujours
tranchées.
Il y a une ambiguïté.
Écoutez, moi, je vois les votes de l'extrême droite au Parlement européen. à chaque fois en soutien à Vladimir Poutine, à chaque fois pas de soutien à l'Ukraine. Alors évidemment, maintenant, dans les discours, ça c'est les positions, ce sont, ils ont le soutien à Vladimir Poutine, honteux. Mais regardons les votes, c'est ça la réalité. Et un dernier point aussi pour illustrer ces votes. Au lendemain de l'assassinat d'Alexei Navalny, l'extrême droite a pleuré des larmes de crocodile. Mais jamais, jamais, ils ont soutenu une de nos résolutions appelant à la libération
d'Alexei. Est-ce que cette rhétorique, plus largement, je reviens aux références aux années 30, est-ce qu'elle est efficace quand on voit le score du RN depuis d'ailleurs l'élection d'Emmanuel Macron ?
Il faut dire aux Français quelle est la réalité des positions des uns et des autres. C'est l'enjeu de cette
campagne.
Est-ce
qu'il faut pour ça utiliser l'histoire, selon
vous ? Le moment est grave.
Pourquoi est-il grave ?
Il faut ne pas, parce qu'on a une guerre aux portes de l'Union européenne, parce que Vladimir Poutine
L'Ukraine,
nous menace.
C'est aux confins de l'Europe, Madame Hayet.
Mais c'est aux portes de l'Union européenne. Vladimir Poutine nous menace.
Il directement.
Menace, alors, il menace directement, évidemment, l'Ukraine qui se défend pour nos valeurs, et Vladimir Poutine nous menace également. Quand on voit les tentatives de manipulation de nos opinions publiques, la désinformation, les fameuses étoiles juives qui ont été taguées sur les murs de Paris au lendemain des attaques du 7 octobre, on sait aujourd'hui que ce sont les services du Kremlin qui ont fait ça. Pourquoi ? Pour atteindre nos démocraties, pour nous diviser. C'est ça la menace qui pèse sur nous. Vladimir Poutine veut s'attaquer à notre modèle démocratique, et c'est-à-dire s'attaquer à nos libertés fondamentales, à la liberté d'expression, au droit d'aimer qui on veut dans nos démocraties. Donc c'est ça qu'il faut aussi préserver.
Vous venez d'évoquer l'antisémitisme, Valérie Hayet. Hier, au dîner du CRIF, Emmanuel Macron a évoqué l'histoire de l'antisémitisme en France, donc la généalogie de l'antisémitisme. Et clairement, il vise, de son point de vue, les racines, dit-il en tous les cas, ou pense-t-il, antisémites du parti de Marine Le Pen. Moi, je me demande aujourd'hui, quel est l'antisémitisme qui menace les Français de confession juive, selon vous ?
D'abord, je voudrais dire tout mon soutien à la communauté juive. On voit aujourd'hui l'illustration encore du temps grave dans lequel on est. Je crois qu'il y a trois niveaux ou trois sources d'antisémitisme. Comme l'a rappelé le président de la République, les racines historiques de l'extrême droite qui sont encore présentes aujourd'hui. L'antisémitisme, je dirais, d'extrême gauche qui se nourrit de la situation au Proche-Orient. Et puis l'antisémitisme du terrorisme islamiste qui tue les juifs parce qu'ils sont juifs. Donc plein soutien. Soyons lucides sur la gravité du moment et sur les attaques vis-à-vis de la communauté juive. Et plein soutien, évidemment, aux Juifs de France et d'ailleurs.
J'en viens aux élections européennes avec vos différents adversaires, entre guillemets. D'ailleurs, est-il un adversaire ou pas, en affichant une proximité politique avec Raphaël Glucksmann, Valérie Hayet ? Que recherchez-vous ? Est-ce que vous cherchez à capter cet électorat social-démocrate centre-gauche, à lui manger la laine sur le dos ?
D'abord, vous l'avez relevé, j'ai dit au début de la campagne que le candidat socialiste vote beaucoup de choses avec nous. C'est la réalité.
Ça lui a pas plu.
C'est,
hein.
C'est la réalité de la configuration du Parlement européen avec ses logiques de compromis. Et maintenant, évidemment, on n'est pas raccord sur tout, on n'est pas d'accord sur tout. Quand on parle du quotidien des Français, on a des différences qui sont majeures. Si on parle d'immigration, moi j'assume de voter le pacte asile-immigration pour répondre aux problématiques migratoires. Le candidat socialiste refuse de soutenir ce texte, alors même que son propre groupe politique le soutient. Sur les questions énergétiques, je suis pro-nucléaire. J'ai pas trop compris la position de Raphaël Glucksmann sur ces sujets-là parce qu'il s'est opposé à un texte qui soutient les petits réacteurs nucléaires au Parlement européen. Et puis, sur les questions de justice fiscale, il veut taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches. Moi, je pense qu'il faut que ce serait une erreur de le considérer à l'échelle nationale ou même européenne, parce que ces riches, ils vont partir à Dubaï, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?
Donc, ayons une réflexion à l'échelle internationale. Bien ce matin, c'est un adversaire.
Et dernière chose, il y a aussi une vérité politique.
Laquelle ?
Raphaël Glucksmann.
Il est de gauche, et vous ?
Soutient la NUPES.
Oui.
Il soutient la NUPES. Et on ne peut pas, pour les Européennes, être pro-Ukraine, et puis pour les législatives, être pro-Mélenchon et
pro-Poutine. Raphaël Glucksmann est de gauche, et vous ?
Moi, je suis centriste, profondément macroniste, avec cette vision pro-européenne, pragmatique, de l'ambition et la réalité du terrain.
Raphaël Glucksmann qui a affirmé, Valérie Hayet, qu'il ne viendrait pas sur CNews pour le débat organisé à l'occasion du scrutin des Européennes. Je voudrais avoir votre avis sur ce sujet et puis vous poser directement la question. Je crois que vous n'avez pas encore répondu. On est là aujourd'hui à poser cette question. Est-ce que vous serez présente à ce débat que nous allons organiser avec évidemment les têtes de liste ?
Je vous le dis, je serai présente. Moi, je parle à tout le monde et la démocratie, c'est le débat. Donc, présente avec plaisir.
La démocratie, c'est le débat, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire, vous estimez, et là encore, je pose une question la plus ouverte possible, qu'en ne se rendant pas dans un débat, est-ce que c'est une entaille, une entorse à la vie démocratique et à la pluralité qu'il faut mettre en avant?
C'est sa décision, c'est la décision personnelle des candidats. Moi, je pense qu'il faut parler à tout le monde et j'irai à toutes les. Je répondrai favorablement à toutes les invitations qui permettent un débat structuré dans les règles de la démocratie.
Donc, je vous dis rendez-vous très bientôt.
À très bientôt.
Merci Valérie Ayé. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. Merci à vous.
Merci Sonia Mabrouk et merci Valérie Ayé. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures du mardi. Nous retrouverons Gaspard Proust. À tout de suite.
7h, 9h.
Europe 1 matin. 8h30 sur Europe 1, Gaspard Proust dans un instant, juste après le journal permanent, Christophe Lamarre.
L'exécutif face à la colère du monde agricole, la FNSEA et les jeunes agriculteurs reçus ce matin à Matignon. Les deux syndicats majoritaires et le Premier ministre doivent trouver un terrain d'entente autour de 4 ou 5 mesures fortes selon une source gouvernementale. Ne pas opposer les agriculteurs français à l'Europe. Valérie Ayé, invitée de la grande interview d'Europe 1 ce matin, d'Europe 1 CNews ce matin, la tête de liste Renaissance aux élections européennes estime qu'en renforçant l'Europe, on renforcera la France. La fonction publique dans la rue, près de 6 millions d'agents appelés à manifester aujourd'hui pour obtenir des hausses de salaire, mobilisation qui s'accompagne d'une grève dans les services publics. Le mouvement pourrait être très suivi, notamment à l'éducation nationale.
La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco.
Le temps, Anissa Haddadi, à la veille de l'équinoxe. La journée s'annonce printanière.
Oui, c'est une journée agréable.
C'est pas l'avant-veille, c'est pas le 21 l'équinoxe, non?
Non, c'est le 20, c'est
ah,
le 20.
Pardon.
Oui, avec des températures agréables, avec 14 degrés à Brest et Lorient cet après-midi, 15 à Dunkerque et au Havre, 16 à Nice, Quimper et Cherbourg, 18 degrés à Clermont-Ferrand, 19 à Paris et Lyon, 21 degrés à Bordeaux, 24 à Carcassonne. Ce matin, c'est nuageux entre la Bretagne et la Normandie, c'est nuageux sur les Pyrénées et l'Occitanie également avec quelques coups de tonnerre ce matin. Mais en règle générale, cet après-midi, ça va vraiment être lumineux et le soleil va dominer sur l'ensemble du pays.
Merci Anissa. Il est 8h32 sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est l'heure de vos signatures du mardi. Dans un quart d'heure, le zapping politique de Dimitri Vernet. Avec Emmanuel Ducrot, nous reviendrons sur cette proposition lancée dans le débat public par Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre socialiste de l'éducation nationale. Pas plus de 3 gigas d'internet par semaine pour les jeunes dans le but de les protéger. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. La revue de presse d'Europe 1 arrive dans 5 minutes également. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour à tous.
Dans les journaux ce matin, Olivier.
Un coup de frein peut-être au business du changement de genre, un coup d'épée contre la pieuvre du trafic de drogue, enfin un petit coup de canif contre le guide Michelin, on verra tout ça.
Allez, à tout à l'heure. Mais d'abord, Valérie Ayé, merci à vous, bonjour, d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
Bonjour Dimitri, ça boum.
Boum boum, I want you in my room. Non mais qu'est-ce que vous ne faites pas dire?
Bah, je vous ai gêné là, on est d'accord. Hein. Non, oui. Mais j'avais envie de faire ressortir votre côté festif parce qu'il y a Dimitri de la matinale en gilet Père Noël est une ordure, bon, pas ce matin. Puis il devait certainement exister un Dimitri un peu festif hein, qui se trémousse sur un podium à Ibiza avec un t-shirt ras du nombril avec lequel il y a marqué « Fuck me, I'm famous » dessus. Non, mais c'est le début de la semaine, la photo, oui, un peu de légèreté, oui. De festivité, bien oui. sûr. Et d'ailleurs, si vous saviez les retours que j'ai sur vous dans la rue, les gens vous adorent.
Ah bon?
Ah ouais, ouais, parce que comme la plupart des relances que je vous écris, c'est « Ah bon, vraiment? Ah oui, ça perd l'hypopète ?» Les gens dans la rue, ils me disent « Dimitri, ça doit être une âme d'enfant. » Un rien les merveilles, ça. Il a l'air tellement étonné de vos blagues. On sent que ce garçon, c'est une belle âme. Il a beau être ukrainien, on lui pardonne. Tu vois.
Bon, c'est
c'était
bien,
pas gagné.
C'est sympa, je vous remercie Gaspard. Dites-moi, vous vouliez revenir ce matin sur l'interview accordée par le président de la République jeudi soir à nos confrères de France Télévisions et de TF1.
Oui, cette phrase incroyable.
Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Qu'au sûr, vous n'allez pas l'exclure.
C'est du même niveau que « The no needs a yes to win against the no », mais en français. Tu vois. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Moi, j'ai fait la liste de toutes les substances légales, illégales, qui peuvent te faire dire ce genre de truc.
Oui.
Hein, vous êtes assis, tout à l'heure, serait debout, ça se trouve, vous allez courir très vite pour rejoindre les toilettes. Et ben, à part des médicaments de la classe des laxatifs ou des raviolis chinois vendus dans un boui-boui du 9e, je ne vois pas. Alors, bien sûr, c'est un peu facile de se moquer du président, c'est vrai que, mais il faut reconnaître qu'il avait, vu juste.
C'est-à-dire?
Dans le fond, il avait pas tort. Il savait qu'ils allaient se lever à la fin. Et, en fait, le président, c'est un marabout qui anticipe ce qui va se passer. C'est docteur Manu, résout vos problèmes de cœur, fait revenir l'être aimé, explose les déficits et lance une guerre nucléaire. Son interview face à la pique, c'est boulot. Moi, je me suis dit qu'à un moment, c'est pas qu'il allait se faire lever les tables, mais qu'il allait la faire tourner. Tu vois? Qu'à un moment, il allait dire, chut, Churchill, es-tu là? Tu sais, il donne des coups dans la table.
Vous avez vu la pixie boulot ? L'esprit munichois n'est pas en moi. Bon, Winston, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que je suis cap ou pas cap de battre la Russie ? Chut ! Un toc, c'est oui. Deux tocs, c'est non. Trois tocs, c'est Damien Abad qui vient de rentrer. Bon.
N'importe quoi.
En effet. Non, mais Dimitri, ce qui m'inquiète, c'est que sa métaphore de génie, là, bon, il l'a fait valider. Je veux dire, moi j'avais des petites oreilles dans la pièce quand c'est arrivé.
Ah, vos fameux surmulots de l'information. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont vu, entendu ?
Alors, il y a un moment, il est monté sur la commode du bureau de l'Elysée, là, il a fait pouf pouf, poème nucléaire. Non, fantaisie nucléaire. Et là, il a déclamé sa métaphore, ils ont tous applaudi. Le chat japonais près du bus de De Gaulle, il était là avec sa main, il bougeait frénétiquement. Son pote conseiller, là, Bruno Roger Petit, c'est le Machiavel en mousse, le gars qui est payé pour regarder l'heure des pros en espérant y pomper trois idées disruptives, il était là. Ah, c'est super, Manu. Oh là là, ton idée, vous êtes assis tout à l'heure, vous serez debout, c'est formidable. Ça va marquer les gens, ils vont être chez eux, ils vont être cueillis. Franchement, si en entendant cette phrase, les gens, ils se lèvent pas direct du canapé en gueulant, on se lève tous pour Danette, c'est qu'il y a un problème.
Bon, vous avez vu que Valérie Ayé est quand même restée pour votre chronique, elle est juste en face de vous.
Oui, et j'ai envie de dire que c'est normal.
Pourquoi ?
Parce que la semaine dernière, j'ai débriefé votre meeting. Enfin, que dis-je ? Plutôt votre show de la mi-temps du Super Bowl sans Super Bowl. Et j'ai dit que du bien.
C'est vrai.
Honnêtement, j'ai rarement été aussi complaisant avec un événement politique.
Alors, vous manquez comme un arracheur dedans. Je vais vous dire, Valérie Ayé, il n'a pas été particulièrement tendre. Hein.
Mais pourquoi vous brisez les rêves de gens purs qui se lancent courageusement dans la politique et qui viennent s'exposer face à des bouffons ? Moi, j'ai jamais dit du mal de vous. Vraiment, je vous jure, sur la vie de Xavier Dupont de Ligonnès. Et j'ai vu que votre envie d'Europe... Non, mais si vous... non, elle a été suscitée par Jean Arthuis. Et on ne touche pas à Jean Arthuis.
Ah, vous allez nous faire l'apologie de Jean Arthuis maintenant.
Vous savez pas qui est Jean Arthuis ? Soit au festival de Coachella ou aux Eurocaines de Belfort, une personne sur deux porte un t-shirt avec Jean Arthuis. Sa fameuse photo, là, costume trois pièces, dreadlocks ou ange à la commissure des lèvres. Mais vous savez ce qui m'a le plus touché dans ce meeting ?
Ben, je sais que vous allez nous le dire.
C'est qu'il y avait des petits jeunes qui étaient là, habillés tout propres. Ces petits mocassins, polo rose, polo noué sur les épaules. On se serait cru à un meeting de Sarko. Vraiment, j'avais l'impression de voir des jeunes LR ou Reconquête, mais capables de danser du pogo en écoutant François Bayrou. Et là, tu dis, comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, j'ai une petite idée que je développerai peut-être demain.
Ah, d'ailleurs, ouais. vous avez vu qu'il y a une grève aussi de la fonction publique aujourd'hui ?
Oui. Et ça, c'est la France éternelle.
Vous avez une pensée pour les grévistes ?
Oui, changez rien, parce que comme le disait très bien Jean Cocteau, alias petit poulet permanenté. Amis fonctionnaires, ce qu'on vous reproche, cultivez-le, parce que c'est vous.
Merci Gaspard Proust.
Je vous en prie et à demain.
Merci beaucoup Valérie d'être restée avec nous. Merci Sonia, à demain. 8h38, oui pardon, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, bah, oui. Le mot de la fin ?
Le mot de la fin, écoutez, demain l'invité sera Adrien Quatennin. C'est peut-être Gaspard.
Mais ça fait longtemps, dites-donc.
Mais oui, ça fait longtemps.
Oui.
Donc première interview avec Valérie et le retour de Quatennin. Voilà, une semaine qui se passe normalement.
Ça commence très fort.
Vous êtes inspiré, oui. Gaspard ?
Oui, non, je pensais à Adrien Quatennin.
Non, ne pensez pas trop, à demain.
On dirait un green de golf, mais avec au glyphosate sur les têtes.
Allez, gardez les autres pour demain. 8h38.
Non, je ne sais pas, ça m'a vu.
Non, mais restez avec nous d'ailleurs, vous pouvez rester Gaspard, vous êtes le bienvenu. Dans un instant, la revue de presse d'Europe 1. Olivier Delagarde, à tout de suite. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, ce matin, on commence avec un rapport sénatorial qui nous alerte sur un phénomène de société dont on parle assez peu.
Et c'est pourtant l'un des plus grands scandales éthiques de l'histoire de la médecine, écrivent les sénateurs dans ce rapport que le Figaro s'est procuré en avant-première. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de ces mineurs qui décident de changer de sexe. Pour l'heure, dans notre pays, il y a une forme d'omerta sur le sujet. Impossible de savoir combien ils sont chaque année, mais leur nombre croît de manière significative. Il faut dire qu'ils sont encouragés par des militants et même des professionnels de santé qui, au moindre questionnement d'ado, lui conseillent de changer de sexe. Heureusement, les choses commencent à bouger. Partout dans les pays les plus progressistes, on fait machine arrière, signale Laurence de Charette dans son éditorial. La semaine dernière, nos voisins anglo-saxons ont décidé de ne plus prescrire de traitements hormonaux aux mineurs. Les Suédois, autrefois pionniers dans la déconstruction de genre, se mordent les doigts. Partout, les experts dénoncent des pratiques médicales inappropriées et dangereuses. Et si vous n'êtes pas convaincu, lisez le reportage publié dans le dernier numéro de Paris Match sur Chloé, jeune américaine un peu paumée, qui s'est vue conseiller bien rapidement par un psychologue un changement de genre. À ses parents, des médecins brandissent le risque de suicide. Que préférez-vous ? Avoir un fils vivant ou une fille morte ? Alors Chloé a pris un bloqueur de puberté aux effets ravageurs. Elle s'est fait opérer pour qu'on lui retire ses seins naissants. Aux États-Unis, la transition de genre est devenue un business, raconte Karen Isère. Seulement, à 16 ans, Chloé ouvre enfin les yeux et s'aperçoit qu'elle a fait fausse route.
Ses médecins sont déstabilisés, ses anciens amis trans la rejettent, lui intiment l'ordre de se taire pour ne pas nuire à la communauté. C'est un fonctionnement de secte, raconte-t-elle. Aujourd'hui, Chloé est redevenue une fille et elle attaque en justice cette cohorte de diafoirus du changement de sexe. En France, rappelle donc le Figaro, avec un peu de retard, des sénateurs écrivent aujourd'hui qu'il y a tout lieu de croire que la transition sexuelle des jeunes sera considérée comme l'un des plus grands scandales éthiques de l'histoire de la médecine.
À la une également aujourd'hui, Olivier Delagarde, des morts oubliées.
Il y a Benjamin, dit le Fisherman, 46 ans, mort à Toulouse. Un homme dit Mousse ou l'Oiseau, 57 ans, mort à Rennes. Une adolescente de 16 ans, retrouvée le 6 mars à Sarcelles. Ils sont 656 à compter la croix qui publient leur nom, leur âge, la date et le lieu de leur décès. 656 personnes sans domicile fixe qui ont perdu la vie depuis début 2023. Un hommage collectif sera rendu à tous ces hommes et ces femmes aujourd'hui aux arènes de Lutèce à Paris.
Tout autre chose avec cette opération de police de très grande ampleur à Marseille.
Oui, c'est une opération anti-drogue, donc de très grande ampleur, comme vous le disiez. C'est ce que raconte le Figaro. 750 policiers sont intervenus hier à l'aube dans 5 cités. L'opération devrait durer des semaines. Des moyens sans précédent sont déployés, nous assure Christophe Cornevin. Il ne s'agit rien de moins que de tuer la pieuvre du trafic de drogue, affirme Gérald Darmanin. On attend évidemment de voir la peau de la pieuvre. Ce qui est quand même étonnant, c'est que personne d'autre, aucun autre journal ne s'est aperçu de quoi que ce soit. Pas même La Provence, qui est quand même aux premières loges à Marseille. Non, ce matin, La Provence, comme toute la presse régionale, compte et recompte les étoiles parce que hier, c'était le grand soir. Petit livre rouge, un événement tellement français, il ne manquait que Ragnaud et ses tartelettes amandines. Hier était dévoilé le palmarès du guide, pas du chemin, mais Michelin. Et par ici, la bonne soupe, un chef varois au firmament, s'exclame Varmatin, qui salue en titre l'enfant du pays, triplement étoilé. Et puis il y a ceux qui grimacent, l'Alsace à la diète, titre l'Alsace, qui note que la région ne compte aucune nouvelle promotion. Enfin, il y a Stéphane Durand-Soufflant qui, lui, à manger de la vache enragée. Dans le Figaro, lisez son papier jubilatoire, évidemment injuste, où il assassine le petit livre rouge. Le millésime 2024 transpire plus que jamais le consensus mou, écrit-il. Il est propre, poli, avec raie sur le côté, mocassin ciré, affirme encore le chroniqueur du Figaro, où l'on s'y connaît en souliers à gland, et de porter de façon magistrale le coup de fourchette fatale. Ce guide Michelin est à l'image de ses pneus, conclut-il. Un peu de matière et beaucoup d'air.
Ouah, dites donc. Voilà, l'aile ou la cuisse pour illustrer ce propos culinaire. Merci beaucoup Olivier Delagarde.
Heureux pays quand même où on s'écharpe pour un œuf meurette ou une assiette de rideau.
Qu'est-ce que vous avez ce matin avec les mocassins cirés? Je veux Gaspard charger à l'instant. Maintenant c'est vous Olivier Delagarde.
Moi j'ai lu le journal, c'est juste ça.
Voilà, alors que c'est l'un des signes de l'élégance et l'élégance est à cette table, figurez-vous.
Le mocassin à gland.
L'homme le plus classe du monde. Non, j'exagère peut-être un peu, mais
ciré,
très bien
glacé.
Oui. Oh, regardez, voilà, qu'est-ce que je vous disais.
Ah, ouais,
Pascal
voilà.
Pro, l'élégance masculine, il connaît.
On glace
les mocassins.
Alors, faut 3/4 d'heure. Mettez un peu d'eau, un peu de...
Ça, c'est après les avoir cirés.
Je vous demande un tout petit instant, Pascal, et je vous donne la parole.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
Bon, la petite PME Pascal Pro Europe 1, c'est à 11h, 11h-13h, avec les auditeurs d'Europe 1. On débat de quoi? Du glaçage des mocassins?
Non, on va revenir par exemple si c'est Sandrine Rousseau qui veut interdire CNews, c'est toujours intéressant. Raphaël Glucksmann également qui ne souhaite pas participer au débat de CNews. Bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir France Inter pour faire sa campagne, ce qui est le cas de M. Glucksmann. Donc effectivement, il choisit ses antennes. Et puis on pourra revenir sur ces sujets-là qui intéressent bien évidemment nos téléspectateurs.
Mmh. Voilà. Rennes, Marseille aussi, le trafic de drogue. Grosse opération de police. Est-ce que c'est un peu plus que de la com politique? Et je pense qu'il y a des auditeurs qui se posent la question.
Écoutez,
ce matin.
Vous savez tous ces mots, la litanie des indignations, inadmissible, dit l'un, intolérable, renchérit l'autre. Nous veillerons, assure un tel. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir. Nous mettrons en œuvre tous les moyens. Et c'est la chanson de Cabrel. Et ça continue encore et encore. Parce que rien ne change. Rien ne change pourquoi? Parce que on ne prend pas. C'est assez simple. pour la Courneuve, par exemple. C'est très simple, en fait. Tous ceux qui attendent à la sécurité d'un policier, bah, c'est 10 ans de prison. C'est très simple. 10 ans de prison. Voilà. Alors, on va me dire que c'est anticonstitutionnel, que c'est trop lourd, etc., etc. Bon, donc ça sert à rien. Ceux qui ont attaqué la Courneuve, c'était des gens qui avaient été interpellés lors des manifestations des émeutes du mois de juin.
On ne se refait pas.
Hein, donc, ou dans une société de plus en plus violente, ou vous changez de braquet, de logiciel, comme dit l'autre, ou vous laissez tout faire. Et puis dans un mois, on dira la même chose, et puis dans 2 ans, la même chose, et puis dans 3 ans, la même chose.
Allez, on en parle tout à l'heure sur Europe 1. À partir de 11h, le numéro de téléphone pour discuter avec Pascal Pro.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.
Bon, et puis l'heure des pros, vous connaissez le rendez-vous, c'est à partir de 9h sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite, Pascal. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Une tribune publiée hier par le site internet du Figaro fait beaucoup parler, signée de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Son titre, libérons-nous des écrans, rationnons Internet.
J'ai un problème. Vous avez un problème. Nous avons un problème. C'est comme ça que commence assez dramatiquement la tribune de Najat Vallaud-Belkacem. Ce problème, c'est celui de nos rapports aux écrans à Internet. En gros, en très très gros, Internet, voilà l'ennemi. Écologie, discrimination, inégalité, harcèlement, éducation, savoirs et culture sont liés à Internet, qui est moins souvent une solution qu'un facteur aggravant, explique la ministre. Comment cela pourrait-il mal tourner avec une analyse d'une telle finesse?
Alors, elle a la solution à cette avalanche de problèmes qu'elle soulève?
Ben oui, puisque je cite, « Nous sommes incapables de nous poser des limites, il faut que la contrainte vienne d'ailleurs, donc de la loi et de l'État. » Najat Vallaud-Belkacem propose une solution qu'elle décrit comme progressiste, rationner Internet à 3 gigas par semaine. La pénurie va vous dissuader d'être méchant sur les réseaux sociaux et de vous gaver de porno. Alors on a tout dans cette proposition, hein, le déni de la liberté, du choix éclairé, l'abdication de l'idée d'éducation à la technologie, l'infantilisation des citoyens, c'est le monde vu avec une petite lorgnette et un grand martinet.
Alors plusieurs opposants à cette solution lui ont répondu que ce bridage, hein, quelque part, c'était un peu totalitaire quand même.
Bon, la critique, elle la voit venir, Najat Vallaud-Belkacem, elle est fine mouche et sa réponse est splendide. Sauf erreur de ma part, en Chine, on soigne aussi les malades. Je ne vois pas au nom de quoi cela devrait nous conduire à fermer nos hôpitaux. Je vous laisse méditer, hein, c'est vertigineux ce qu'on peut justifier comme privation de liberté avec cette comparaison.
Ça ressemblerait à quoi d'ailleurs un futur avec un Internet rare?
Ah bah elle nous prévient avec une admirable lucidité, rationner Internet ne fera pas disparaître tous les problèmes. Bah tu m'étonnes. Mais nous pouvons, dit-elle, envisager dès maintenant des activités que nous avons pris l'habitude de faire en ligne sans Internet. On peut par exemple rédiger ses courriels sur un traitement de texte et les envoyer à la fin de la journée. Bah oui, effectivement, ça fait moins d'écran, hein, quand on y pense. On peut même, toute personne s'y connaissant un peu en programmation vous le dira, tenez-vous bien, coder sans ordinateur avec un crayon et un papier. Bah oui, il suffit de retaper après, une fois qu'on est en ligne. Tout ça est absolument génial. Je ne sais pas ce qui est le pire, hein, qu'une ancienne ministre soit tellement en mal de lumière qu'elle puisse défendre le ticket de rationnement numérique comme un progrès, qu'elle ait oublié que ministre, elle a milité pour la distribution des tablettes aux enfants, ça c'était en 2016, ou que son analyse du numérique soit si indigente qu'elle repose sur des fake news, sur l'empreinte carbone du numérique et surtout qu'elle ignore que l'intégralité de notre économie, de nos systèmes de communication et de sécurité repose sur Internet.
Oui, vous n'avez pas l'air convaincu par cette proposition.
Ah, si, je vais vous surprendre, j'ai été totalement convaincue. Totalement. Lorsque je suis parvenue à la fin de cette pénible tribune sur le site du Figaro, j'étais convaincue que si c'est pour lire ce genre d'ânerie, il faut tout de suite, immédiatement, fermer Internet.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 8h52.
7h, 9h. Europe 1 matin.
Et voici le zapping politique européen signé Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour à tous. On commence ce zapping avec Émeric Caron sur France Info, le député insoumis en mode géopolitologue. Oui, c'est un oxymore.
Face à une nation qui a l'arme nucléaire, face à une nation qui a vaincu les nazis, qui a vaincu Napoléon, qui, enfin à un moment, il faut être sérieux. Face à la Russie, on négocie, on est obligé.
Oui, les insoumis, comme à leur habitude, forts avec les faibles, faibles avec les forts. Pendant ce temps-là, sur Europe 1 et CNews, on a eu le droit à un nouvel épisode de... C'est pas sorcier. Vous avez reconnu.
Oui, tout à fait.
Bon, aucune blague, c'est pas sorcier sur Europe 1 et CNews, sauf que Jamy, bon, il a un petit peu changé de look.
Ça donne la nitrate et la glycérine, vous voyez? C'est simple, ça donne la nitroglycérine.
Ben oui, c'est bien le chimiste Éric Zemmour qui était à notre micro. Le Jamy de Reconquête qui a également réagi à cette phrase choc de Bruno Le Maire dans le JDD. La gratuité de tout pour tous tout le temps. c'est intenable.
Je me suis dit, mais quel dommage que cet homme ne soit pas ministre des Finances depuis 7 ans. Tout ce qu'il dit, il ne l'a pas fait. Il a même fait le contraire.
Tout ce qu'il dit, il ne l'a pas fait. Pire, il a fait le contraire. Oui, Bruno Le Maire, c'est un petit peu notre David Copperfield. Tout n'est qu'illusion avec Bruno. Pour s'en rendre compte, écoutons-le sur France Inter.
Il reste un point noir, c'est le chômage des seniors. Et l'intérêt du lit, c'est de se dire, ce qu'on a fait là, c'est déjà bien. On a mis en place des index.
Il se félicite de la mise en place d'index seniors lors de la réforme des retraites. Problème, bah ça n'existe pas. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Allez, deuxième exemple.
Je défends la très belle idée de voir Aya Nakamura chanter Edith Piaf. Je suis fan.
Bruno est fan d'Aya Nakamura.
Il a chanté ou pas?
Fan, non, il a pas chanté. En tout cas, il est fan. Vous avez bien entendu.
Oui.
Maintenant, écoutons la suite.
Vous écoutez Aya Nakamura?
Non, je ne sais pas forcément le genre de musique que j'écoute.
Ah. Bon, ah. Sacré Bruno. Allez, pour finir, je vous emmène au pays de...
Candy.
Sandrine, non, ça fait longtemps, oui. Au pays de Sandrine.
Comme dans tous les pays.
Et au pays de Sandrine, on a une vision bien particulière de la démocratie quand même. Hein.
Aujourd'hui, CNews interroge la limite de notre démocratie.
Il faut interdire à CNews d'émettre aujourd'hui?
Moi, je pense que la question se pose. Oui, la question se pose.
Au pays de Sandrine, on donne également des précisions. Précision pas vraiment utile.
Je rappelle que l'accord de Paris a été signé, comme son nom l'indique, à Paris.
Oui, l'accord de Paris, il est forcément signé à Paris, Sandrine. Mais au pays de Sandrine, surtout, on n'aime pas Michel Sardou. En tout cas publiquement.
Désolé Michel, ce temps-là est fini, mais le temps qui arrive est un temps d'égalité et il est bien meilleur.
Bon, il vous a dédicacé « Je vais t'aimer hein. ».
Je vais t'aimer.
Ouais. Oh, bon, vous avez entendu, elle a failli chanter. Bon, peut-être que Sandrine, on peut l'exorciser avec du Michel Sardou. Alors Sandrine, si tu nous écoutes, c'est pour toi.
Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer.
Voilà, Michel Sardou, je suis pas sûr que ce... Non, c'est peut-être pas son
bah,
cessaire,
ouais. Écoutez, peut-être qu'elle aime bien, regardez, bon. Elle a essayé de chanter.
En tout cas, bon. Le message est limpide. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique.
Demain.
Allez, dans un instant, l'information continue sur Europe 1. L'heure des pros, bonne journée, à demain.